Bonsoir tout le monde et bienvenue au 42e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Queen's Math Quest, le camp de mathématiques de la Queen's University en Ontario. Ça se ressemble assez peu parce que nous, notre Queen des mathématiques, c'est Dan.
Oh, c'est fin!
Ouais, tant qu'on te grab pas right by the pussy.
Non, là, ça marche pas.
Ça marche pas. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et encore une fois cette semaine, Jean-François, ça fait bizarre de dire ça. Jeff ne pouvait pas y être.
Mais non, malheureusement.
Il est apparu le temps d'une causeuse préenregistrée.
Oui, c'est ça.
Personne ne suivait, c'est comme « Ah, Jeff sera pas là! » Puis il y a une causeuse, puis là, il est là, puis là, il est repas là. C'est... On brise la magie de la radio.
C'est ça qui arrive quand on enregistre une causeuse pré-podcast parce qu'on fait un podcast trop serré, parce qu'on veut parler de la Switch, parce qu'on est énervé comme des petits-enfants.
Mais pas trop serré puis petits-enfants dans la même phrase.
Sinon, il va falloir faire comme dernier podcast, faire des jokes de Jean-François Racine.
Alors, on aimerait saluer Jean-François Racine. Okay. Nous sommes le 20 mars, journée internationale du bonheur et journée internationale sans viande. Alors, on aimerait saluer tous ceux qui sont capables d'être heureux sans manger du bacon et qui nous écoutent. Donc, merci à vous trois d'être là.
Yay!
C'était aussi la journée internationale, par contre, de la francophonie. J'avais pas de joke avec ça, mais...
Soulignons-le.
Voilà.
C'est des fois, hein, la tyrannie du rire, comme qu'ils disent. Pour juste faire juste des gags.
Voilà. Non, comme tu nous le prouves régulièrement.
Régulièrement.
Fait que comment ça va, Dan?
Ben, ça va pas pire, pas pire.
Ah, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine?
Ben, je commence en disant, Mathieu, c'est sérieux, là, soyons sérieux. C'est un épisode spécial aujourd'hui.
Je t'écoute.
C'est l'épisode où, finalement, nos règles sont synchronisées avec celles de Stéphane et Mathieu, les sorbets du caractère mou, là.
Hey, non, on va falloir arrêter de leur faire des shout-outs, par exemple.
Ouais, ben là, tu sais.
Ils vont penser qu'on les respecte, pis tout. C'est pas vrai, les gars, on vous aime!
Ouais.
Parce que vous m'entendez quand je parle comme ça.
C'est sûr!
Oui, OK.
Tu cries plus fort, loin du micro! Hey, oui. On tendrait de venir un épisode des sorbets, là. On va se reconcentrer. Bref, ben oui, aujourd'hui, 20 mars, ce sera leur 42e épisode et notre 42e épisode. Hein, ils nous ont comme rattrapés en faisant deux épisodes.
Tout ça synchronisé semaine, sur une référence au Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Quand même.
C'est pas beau.
Hein, c'est-tu magnifique? On dirait que c'est arrangé. Et pourtant, si peu.
Et si peu.
Sinon, pour vrai, cette semaine, Zelda, hein?
Zelda.
Pas mal ça. On vous en reparlera tantôt. On va faire un petit retour sur la Switch tantôt, fait que je vais revenir un peu plus. Mais pour vrai, j'ai pas joué à grand-chose d'autre que Zelda. Ça a été beaucoup mon temps de gaming pendant les dernières journées.
Toi et tellement de monde, j'ai l'impression.
C'est clair, là. tu sais, faut dire à ma défense là, qu'il y a comme même pas vraiment deux semaines entre les podcasts, là, étant donné que l'autre, on l'a enregistré tard, puis tôt. On a à peine plus qu'une semaine. Donc, c'est ça, j'ai pas le temps de jouer tant que ça d'autres choses. Sinon, ben quoi, j'ai profité d'un de mes après-midi de congé pour aller à Laval. Un de mes après-midi, comme je n'avais comme tant que ça, mais en tout cas, un après-midi de congé.
C'est bien connu, hein, les profs.
Ah oui, ça, je travaille pas, pis tout. Mm-hmm. partirai pas là-dessus. Ça... pour aller à Laval, j'avais une Switch à livrer à mon beau-frère.
Ah, bien sûr.
Ben, tu sais, bon, j'aurais pas été si t'avais pas été du fait que je voulais aller voir Logan aussi, mais j'étais comme, ah, oh, je vais-tu voir Logan? Ah, tu sais, faut que je fasse un.
Logan n'étant pas le beau-frère, mais étant le film au cinéma. Oui, c'est ça. D'accord.
J'allais voir le film Logan, puis là, j'étais comme, bon, tant qu'à y aller, on va aller porter la Switch, puis je pense que j'ai fait un heureux en allant livrer ça chez eux. Donc, ben oui, je suis allé voir Logan. Bon film, vraiment, là. Tu sais, je disais l'autre fois, je suis allé voir John Wick 2, puis que c'était un gros film d'action, là. Tu mets ta tête à off, il n'y a pas vraiment d'histoire. Tu sais, l'histoire se réserve, c'est vraiment une phrase, là. T'as tué mon chien, puis t'as comme volé mon char dans l'autre film d'avant, fait que ça continue. au contraire, Logan faisait les deux, beaucoup d'action intense, puis aussi beaucoup d'histoire. Pour ceux qui n'ont pas rien vu, là, c'est de l'action, pas de film général. Mm-hmm. On parle d'un film 13 ans et plus ici. Aux États-Unis, il est allé chercher une cote de R, là, qui veut dire
16 ans.
17 ans. Okay. 17 ans et plus, ou en tout cas, sinon, accompagné d'un adulte en bas de 17 ans.
C'est probablement beaucoup à cause de Deadpool, là.
Ouais.
Le film était justement en montage, puis c'était pas clair le rating qu'il allait avoir. Puis finalement, avec le succès de Deadpool, c'est comme, oh, OK, le monde en veut, les films de super-héros.
Ouais, ben c'est ça. Il y a aussi le fait que, tu sais, je pense qu'ils ont décidé de gâter un peu Hugh Jackman là, pour son dernier film dans la peau de Wolverine.
Mm-hmm.
Tu sais, fait que c'est contrairement aux autres où est-ce que tu voyais vaguement des fois des griffes rentrer dans un chest. Là, tu vois des membres revolés, puis des bouts choppés. C'est assez intense, là, assez violent, assez sanglant. Tu peux. Peut-être un peu trop d'amputation, mais bon, hein, qui suis-je pour...
pour juger. Alors, on aimerait saluer tous les amputés qui nous écoutent.
Qui sont heureux et qui ne mangent pas de viande.
On vient de réduire notre public.
Ouais, je pense que dans notre public, ça serait surprenant qu'il y ait quelqu'un que ça cible tout ça. Si oui, ben faites-nous signe.
Hein, un végétarien amputé et heureux, c'est quand même... c'est quelqu'un qui est vraiment positif dans la vie.
Ben, on aime ça.
Voilà.
Mais sinon... il y a aussi une trame narrative, une histoire vraiment cool dans Logan. Là. C'est, je pense que c'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé le film. Il y a quelque chose, tu sais, oui, il y a des actions, des scènes d'action, de combat intense, mais il y a une narrative vraiment le fun. Tu sais, on feed pas le background non plus là, de où on est rendu. Ça se passe comme en 2029, un petit peu dans le futur. En même temps, assez loin dans le futur du dernier X-Men qui se passait dans les années 80. Puis tu sais pas trop pourquoi on est rendu là puis de quelle façon. Puis tranquillement autour du film, tu découvres certaines affaires. Puis il y a des trucs, là, c'est une ligne. Là. T'as comme, OK, l'information t'est donnée vaguement. Puis c'est correct. C'est pas grave de pas tout savoir.
C'est pas important. Hein.
Non, c'est ça. Fait que voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Basé, ça a l'air beaucoup sur la série de comics, le Old Man Logan, que j'ai pas lu pendant tout. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Ça a été une belle expérience agréable, un bon film. Un film qui est le fun, tu sais, qui commence puis qui finit, c'est tout.
Mm-hmm. Ouais, ouais, dans un univers de franchise, surtout X-Men.
Tu sais, je dis pas qu'il pourrait pas faire quelque chose à la suite, mais ce serait pas un Wolverine. Tu sais, ce serait ce qui se passe après Logan. Puis
il donne pas l'impression que c'est ça le but non plus.
Non, vraiment pas, vraiment pas. Fait que beaucoup aimé, ça a été bien agréable. C'est pas mal ce que j'ai fait de particulier dans les dernières semaines. Ouais, sinon, pas mal de temps passé dans le coin d'Hyrule. Ouais. Sinon, encore une fois cette semaine, tu l'as dit tantôt, je pense qu'il faut le souligner. Là. Nous interrompons ce drop audio pour vous aviser que la chanson Where's Jeff ainsi que les personnages de la série The Wiggles sont des propriétés intellectuelles appartenant à ABC Music.
Ah ouais.
Ben oui, après la publication de l'épisode la dernière fois de la Switch là, sur YouTube, on a eu une notification de violation de droit d'auteur. Et non, pas pour... Non. Contrairement à beaucoup de vidéos ces temps-ci, semblerait, avec des extraits de jeux et de Nintendo. Mais non, bien par pour l'extrait des Wiggles. Donc, en conclusion, don't fuck with the Wiggles, ça a l'air, parce qu'ils sont protecteurs de leur droit d'auteur sur Where's Jeff.
On pourrait peut-être les contester leur droit d'auteur en disant qu'on a les droits exclusifs sur l'absence de Jeff.
Ouais, juste nous qui avons le droit de pas trouver Jeff.
Ouais, on va copyrighter ça.
On va copyrighter l'absence de Jeff.
On vous tient au courant.
C'est une pétition, là.
C'est calice.
Ben, tant qu'à être là-dedans, je donne une... Je me donne une punition. Là. Les Wiggles sont pas anglais, sont australiens.
Ah, OK.
C'est ça. J'ai pas fait de la distinction.
OK.
Sinon, ben, j'étais un petit peu triste quand même qu'on n'a pas plus fait une grosse affaire avec l'épisode 42. Tu l'as souligné tantôt rapidement, mais c'est quand même la réponse à la question ultime de l'univers, de la vie et tout. Puis c'est aussi mon numéro de jersey de Divan Quest.
Ouais.
On
aurait pu se faire un épisode thématique, mais ça demanderait de se préparer. Puis tout le monde sait que Divan Quest, c'est juste trois gars qui jasent. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a rien.
Non.
Il n'y a surtout pas trois gars.
Ouais, voilà. Hey, ouais. Toi, Matt, t'as fait quoi de bon?
Écoute, je me sens un peu cheap parce que ma liste est beaucoup moins longue que la tienne. Mais
j'ai une review de Logan là-dedans qui est à moitié du temps.
Hein. Bon, n'empêche. Hein? ma vie est un petit peu chargée de ce temps-ci. Je me permettrai de l'expliquer dans un épisode futur quand les changements seront complétés. Mais que des bonnes choses.
J'ai juste le goût de faire un gag d'opération. Hein?
Ouais, c'est ça. Alors, ma graine. Non, Non, c'est ça. Donc, inquiétez-vous pas, tout est pour le mieux. Mais cela dit, j'ai quand même trouvé le temps, moi aussi, de jouer un peu à la Switch, car maintenant, évidemment, je l'ai reçu. Donc, j'ai pu jouer avec tout ça. On vous en parle au long de l'épisode, parce que c'est pas mal tout ce qu'on fait. On est rendu un podcast de Switch.
Ouais.
En tout cas, pour deux épisodes.
En tout cas, on attend l'argent de Nintendo. Là.
Ouais, ou en fait, les mises en demeure, vu qu'ils take down toutes les maudites vidéos de Switch.
C'est ça.
Hein, Nintendo? OK, change pas, on t'aime. Mais, en part...
On t'aime, mais change pareil un peu, peut-être. Là.
C'est ça. À part jouer à la Switch, j'ai gagné. En fait, c'est un peu vite dit gagner, parce qu'il y a personne d'autre que moi qui a misé dessus. Mais j'ai gagné quelque chose que ça fait longtemps que j'essayais de me procurer sur eBay.
Si je regarde dans les notes, je pense que c'est un droïde de combat de l'époque de la guerre des clones.
Un CTG BK6, exact. Ça pourrait passer pour ça. Non, le CTG BK6, en fait, c'est une des premières bébelles que Nintendo a faites. En fait, c'est leur quatrième console domestique qu'ils ont fait. Mais c'est la première qui a leur nom de printé dessus. Parce que les trois premières étaient sous licence, je crois, pour Mitsubishi ou quelque chose comme ça. Une autre compagnie japonaise qu'on connaît puis qui font
pas... Pas tout ça.
Exact. Mais c'est la première qui a le nom de Nintendo dessus. Puis ça se trouve avec une machine de casse-briques, là, de Arkanoid. Mais c'est une machine que je trouve tellement belle puis qu'on ne voit pas passer souvent. Puis qu'un des gros problèmes de cette machine-là, c'est qu'elle a un super beau plastique orange avec tous des boutons colorés. Elle est vraiment très, très 70.
Puis elle fait très japonais aussi,
elle
70.
Elle est super belle. Et le gros problème qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas souvent très belles, c'est que le caoutchouc du câble vidéo était abrasif envers le plastique de l'appareil. Ce qui fait que les gens le roulaient, puis le mettaient dans un garde-robe. Il y a tout plein de traces de plastique fondu tout le tour de l'appareil. Celui que j'ai trouvé en a une très petite, puis souvent, ils sont très, très décolorés. Je suis vraiment content d'avoir mis la main, en tout cas, selon les photos, à une unité en très belle condition que je vais recevoir prochainement. C'est vraiment juste un bibelot, là. C'est une affaire que tu joues une fois, puis que tu retouches plus jamais, là. Mais je suis bien content, parce que ça fait longtemps que j'ai cherché.
Non, c'est une belle pièce de collection, là, quand même. Des
c'est
fois,
tout
on...
ce que c'est.
Ben, c'est ça, mais on peut... on a le droit. Mmh. Hein?
Fait que c'est
pour... On est des hommes adultes, des fois.
Majoritairement. Puis ensuite, ben, en fait, que j'aimerais souligner cette semaine, c'est que le 24 mars prochain, chez Arcade Montréal, on aura droit au tournoi de lancement du jeu Old Time Hockey. Ah! presque. Ah, du jeu Old Time Hockey. Le jeu sort dans la semaine qui suit, je ne me trompe pas, quelque chose comme le 28.
OK.
Je suis peut-être, je me mets un petit peu dans le marde, mais je suis peut-être en train d'avoir des clés pour qu'on puisse y jouer, le reviewer pour notre prochain épisode. Mais au minimum, en tout cas, moi, Dan, si tu es disponible.
Ouais, je devrais, là.
Parfait. On devrait être présent chez Arcade Montréal le 24 au soir pour le tournoi de lancement de Old Time Hockey.
On s'avance-tu en disant qu'on portera nos chandails de hockey?
Fort probablement qu'on va être en chandail de hockey du VanQuest. Ça serait approprié.
Quand même.
Donc, évidemment, si vous voulez nous jaser un peu, ben. Soyez là.
Ben ouais,
anyway, du gros hockey sale, inspiré de Slapshot, rétro et tout.
Slapshot que j'ai acheté cette semaine sur un coup de tête sur Amazon.
Tout est dans tout.
Pour 5 piastres.
Je lisais justement, je pense que c'est Arcade Montréal, justement sur Facebook, qui partageait que dans Old Time Hockey, tu peux, si t'as une punition, une delayed penalty, là, une punition qui est appelée d'avance là, avant qu'elle soit en effet, donc avant que tu touches à la rondelle, tu peux sacrer une volée à l'arbitre pour l'annuler.
Si c'est ça.
Qui est une mécanique de jeu tellement brillante. En fait, ça me fait penser au... Tu sais, on parle souvent des... Quand tu as un jeu qui est une simulation, en fait, on parle souvent, on n'en parle jamais, mais c'est pas grave. Moi, j'en parle souvent. Quand tu as un jeu qui reproduit la réalité, souvent, tu vas prendre des mécaniques inspiré de la vie réelle, mais qui n'ont pas tellement de sens au niveau de la balance du jeu. Exemple, Blade of Steel, quand ils ont fait les combats, de permettre à celui qui gagne de ne pas avoir la punition,
ouais.
C'est un excellent équilibre, ça rend les joueurs agressifs. Tu veux gagner le combat, puis... Bon,
mais dans la réalité, on s'entend que c'est pas ça. T'sais.
Exact, mais ça crée une mécanique de jeu.
Il y a des games différentes dans l'esthétique. Hein?
Ce serait malade. ben c'est ça, ça crée une mécanique de jeu intéressante. Puis ça aussi, ben, la pénalité à retardement, qu'on peut annuler, ça donne une mécanique de jeu écœurante. Non, on ne voudrait pas que ce soit même dans la vraie vie, mais c'est ça, c'est encore une fois où est-ce qu'on pense outside the box, puis que ça crée une ambiance au jeu.
C'est inspiré de la lutte, ce move-là, de taper l'arbitre.
Oui, c'est ça, qu'il ne puisse rien faire. S'il est en train de compter, puis il est étendu à terre avec la
France. Bon, c'est peut-être pas encore, mais ils sont comme des arbitres de la lutte, justement. Là, tu lui donnes un coup, puis il est à terre pendant 22 minutes.
J'espère. On en reparlera.
Ah oui, ah, c'est clair. Non, mais je devrais être là pour la soirée d'arcade.
Ben, au minimum, j'y serai. Donc, vous voyez un. Gars de 5 pieds 6 avec un chandail de hockey bleu, avec un gros divan sur le devant. De moi. Mm. Bon, alors cela dit.
Si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il est caché en arrière de moi.
Ben bref, c'était tout pour moi cette semaine. Mais on s'était promis évidemment de faire une suite à notre expérience avec la Switch.
Ben oui. Oh, c'est bon, hein? Quel beau timing.
Je pensais pas qu'elle allait le couper. En tout cas,
c'est correct.
Alors, fait que maintenant, 10 jours plus tard, ou à peu près, avec la Switch, comment on se sent?
Ah, j'ai joué en temps.
Toujours autant d'amour?
Moi, vraiment, oui. J'adore la console. J'adore le fait que tu peux jouer n'importe où, n'importe comment. C'est très drôle parce que, juste avant que la Switch sorte, parenthèse là, qui va nous aider à comprendre comment c'est utilisé chez nous cette histoire-là. Ma blonde s'est acheté Yoshi Woolly World, j'avais dit. Fait que ces temps-ci, en fin de semaine, là, on était bien belges tous les deux. Là, on switchait. Qui c'est qui allait être sa télé et qui c'est qui allait jouer direct sa console? Voilà. Fait que tu sais, m'en est, je jouais sa télé, puis là, j'allais faire d'autres choses, je jouais sur ma console, elle a joué sa télé, puis j'étais comme, ah, ma batterie va mourir, puis là, elle a joué sur Gamepad, puis c'était vraiment très drôle.
Ah, ouais, ok, ouais, j'avais pas pensé à. Ah, ouais, puis juste transférer sur Gamepad.
Puis là, aussi. Des fois, je jouais sur Gamepad, je jouais sa télé, puis des fois, je jouais sur la Switch directement sur la console, elle jouait sur la télé, c'était très drôle. Ça n'a aucun rapport, mais c'était comique, tu
et voilà.
Toi, Matt, toi, tu l'as découvert beaucoup plus. Tu as eu le temps de jouer avec pas mal.
Ouais, c'est ça. Parce que la dernière fois qu'on a parlé de la Switch, j'avais seulement joué le petit.
T'avais joué avec ma Switch.
Je t'avais joué avec la Switch. On avait à peu près 20 minutes de temps qu'on a joué à Bomberman avant qu'on en parle. Fait que là, mon appréciation du hardware, évidemment, a changé un petit peu. Entre le moment où on en a parlé et où je l'ai reçu, il y a eu beaucoup de gens. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu beaucoup de gens, mais il y a eu beaucoup de bruit alentour des scratchs sur l'écran de la Switch. Ben, en fait, sur le contour de l'écran qui serait causé par le dock. encore une fois, c'est l'Internet. Là. Faut le prendre pour ce que c'est.
Moi, j'ai rien de tout ça.
Ben, moi, je suis nerveux que le tabarnak. Fait que c'est sûr que je le dépose pas tellement dedans que je le... Je fais une chirurgie pour l'insérer. C'est ridicule, le niveau de soins. Mais cela dit, beaucoup de bruit là-dessus. Ça m'a rendu nerveux au point que je vais me commander, oui, un protecteur d'écran. Pas quelque chose que je fais d'habitude, mais l'écran de la Switch étant pas en vitre, ce que je comprends très bien pourquoi Nintendo l'a fait. Nintendo préfère avoir un gadget qui est graffiné qu'un gadget qui marche plus.
Qui est shattered puis pétant en miettes.
Là, exact. C'est clair, hein. Mais ça va me prendre un protecteur d'écran en vitre parce que je le truste pas.
Tu sais, pour donner une idée, là. Si tu regardes ici, je te laisse le lire là, sur le Play Activity de Zelda.
Oui, parce que Dan a amené sa Switch. Oh, tabarnak, a joué pour 45 heures ou plus. Ben, voyons je donc.
Je sais pas comment j'ai fait.
Tu te le dis.
Ouais, c'est ça.
Écoute, tout le monde qui a une Switch, quand vous allez voir vos amis, là, si vous en avez des amis, là, c'est pas compliqué, ouvrez pas le menu d'amis. Okay? Quand c'est écrit, t'as deux amis connectés, là, sont en train de jouer à Zelda. C'est rien que ça qui se passe. C'est écœurant. T'ouvres ta Switch.
Mais, mettons qu'on parle de Zelda, là. Je capote sur ce jeu-là. Ils ont réussi à faire quelque chose. Ils ont réussi à m'accrocher comme j'ai rarement été accroché. Ma phrase qui me fait me rendre compte à quel point je suis accroché, là, c'est samedi matin, c'est le moment où je raid. Là. J'ai fait comme moi, j'aimerais mieux jouer à Zelda que raider. Oh shit, mm-hmm. C'est quand même quelque chose. Puis ma blonde qui me dit hier, genre, tu joues encore à Zelda? Pas qu'il y a un temps de reproche. Là. C'est genre... Elle dit ouais, d'habitude tu tannes de ces jeux, tu sais, de tes jeux, parce que c'est vrai que souvent je me tanne des jeux. Tu sais, je vais jouer une couple d'heures assez pour être capable d'en parler si j'en parle sur le pod, ou à un moment donné, je fais comme bah je vais passer à autre chose, je finirai pas. Puis tu sais, c'est pas plus grave, là. Tu sais, pour moi, un jeu, c'est pas un but de le finir. J'ai du plaisir à jouer, tu sais. Puis non, c'est quand même intéressant. Dernièrement, j'arrête pas de dire à tout le monde. J'ai juste le goût de dire à tout le monde ça. Là. J'ai comme réussi à trouver quelque chose que je pensais pas pouvoir trouver. Puis j'ai juste envie de dire ça à tout le monde. Je vois un cheval, mon gars, qui est grand comme ça n'a pas de bon sens. Moi, à côté, j'arrive à peine en bas des pattes, genre. Hein?
Giant horse.
C'est un fucking giant horse. Ouais, puis c'est une occasion de dropper le look at my horse. Mais...
il y en a jamais assez.
Non, c'est ça. Je me disais la même chose quand je clipais le son tantôt. Bref, tu sais, j'aime ça. Comme je disais à d'autres mondes en jouant, tu sais, des fois que je suis un peu vête, j'ai pas vraiment envie de me concentrer puis de faire « OK, je vais aller à telle place puis aller faire telle mission. » Je vais me promener. Là, tu te promènes. Là, tu découvres des affaires. Puis c'est comme... Mm-hmm. Juste ça, c'est satisfaisant.
Ben ça, moi, j'ai pas pu donner mes impressions la dernière fois vu que j'avais pas joué. Oui. Mais maintenant, dans la même idée, le feeling d'exploration, je sais que c'est pourtant tellement de jeux qui sont open world, mais d'enlever la petite ligne pointillée contre laquelle je pétitionne sans arrêt, enlever le feeling de GPS... Ça change toute l'approche que tu as. Même si tu as des markers sur une carte, si tu es obligé d'ouvrir la grande carte pour voir l'endroit exact.
Ou d'utiliser ton scope pour voir quelque chose qui est tellement loin.
Ben ça, en fait, le scope, je trouve que c'est leur meilleure idée. Parce que si tu peux juste voir, tu peux placer des pins avec le scope, puis tu les vois juste au travers le scope ou sur ta carte. Mais d'y regarder à travers le scope, de regarder le beam de lumière dans le ciel, ça te force à être au courant de la géographie. Fait que ça, c'est magnifique. Mais ce que j'allais dire au niveau du feeling d'exploration, c'est que le dernier jeu qui m'a donné ce feeling-là, c'est Minecraft. J'ai comme remarqué comme une combinaison de facteurs. Évidemment, que la musique soit très, très, très éparse. Très, très peu de musique. Puis ça, on dirait que ça donne l'impression de pas être guidé, de pas avoir un but spécifique, de juste être là. Puis c'est ce que Minecraft faisait avec brio. Puis dans les deux cas, bon, Minecraft pour des raisons évidentes, là, mais dans les deux cas, on n'a pas l'impression qu'il y a un level design path, qu'il y a un chemin pour te rendre de telle place à telle place que le jeu essaye de te forcer à prendre jamais. Parce que tu peux tellement approcher tout de tous les angles, puis tu sais que tu es capable de le faire.
Ouais. Même les puzzles que tu peux complètement comme éviter en ayant comme une arme particulière que tu sais. Là, t'as l'impression d'avoir triché, mais c'est correct, c'est pas grave, tu sais.
Il y a vraiment un... C'est ça, t'as pas l'impression que le jeu s'attend à quelque chose de spécifique, à part quand t'es dans certains shrines, des trucs comme arrive, ça. Là. Mais c'est ça, moi, ça me donne envie de jouer. Ça reste un open world, ça reste que les choses sont loin, tu passes beaucoup de temps de promener, puis c'est ça qui fait qu'il y a des bonnes chances que je le finisse jamais. Mais chaque moment que je suis pas en train d'essayer de rejoindre un objectif, c'est fun.
Mais en même temps, plus tu fais des objectifs, plus tu voyages rapidement, parce que chaque shrine que tu découvres, c'est un point de quick travel. Fait que tu sais, je suis d'accord avec toi que oui, il y a du voyagement qui se fait, mais en même temps, même ça, pour vrai, là, je trouve que c'est, tu sais, souvent, c'est ça, tu vas trouver des choses en chemin. Moi, je regarde, le vu, là, en haut de 45 heures, ça n'a pas de sens, là. À part, wow, pour vrai, je sais pas quel genre de jeu j'ai joué avec autant d'heures, là.
Mais c'est ça, j'ai que du bon, là. En fait, le bon, il a été dit, il a été redit. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, là. Le jeu est satisfaisant et value ton intelligence.
Ouais, puis de toute façon, tu sais.
Mais le fait justement que tu peux approcher les situations comme tu veux. Exemple, à un moment, je manquais d'outils pour faire du feu. La solution a été de pogner un baril de feu, de le transporter pendant genre 1,5 km, de faire éclater un arbre et d'allumer ma torche sur les tisons de l'arbre qui crame.
Tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est pas dangereux du tout. T'aurais genre vraiment pas pu avoir comme un bocoglin qui garoche une flèche puis qui pète avec le baril.
Ça a été difficile de me rendre avec le baril. C'était la nuit, fait qu'en plus, il y avait des squelettes qui se levaient.
Mais tu sais, il y a des affaires, même, tu fais comme « Ah, je pense qu'il faut que je mène telle affaire à telle place. Ah, c'est loin, je vais le faire. » Puis finalement, c'était pas là. Genre, tabarnak. J'ai fait 3 km avec une boule dans les mains.
Mais c'est ça. Dans mes points négatifs, là, je vais dire gossage d'inventaire.
Ouais.
Faire de la cuisine, là, pourquoi c'est pas juste un menu cook? Choisis toutes mes recettes, fais l'hostie d'animation à la fin. Puis sac-moi patience.
En sifflotant.
Je reviens sur la cuisine plus tard. Prenez-en note. Mais le gossage d'interface, ouais, ça, numéro un de ce crise de jeu-là. OK. Les armes brisent. Les armes brisent assez rapidement. Moi, je suis dans j'ai 10 heures de fait. Ouais. OK. Les armes brisent très rapidement. C'est fine. Ça te fait improviser. Quand tu as une arme qui est sur le point de péter, tu pitches pour qu'elle fasse double dégâts d'en face à quelqu'un. C'est super intéressant ce que ça crée. Sauf que ça fait que ton inventaire d'armes, d'arcs et de boucliers, tu le tiens toujours plein. Et là, toutes les fois que tu ouvres un calice de coffre puis qu'il y a une arme dedans, il te la montre, il te fait la petite toune. Tu vois le nom de l'arme, tu vois sa description, puis il dit ton inventaire est plein. Puis il te permet pas de changer d'hostie d'arme là. Faut que tu ouvres ton menu, tu pinces sur l'arme, tu drops, tu rouvres le coffre, qui fait la même petite crise d'animation, puis que là il t'adonne.
Ouais.
C'est cave.
J'avoue.
C'est là, vraiment épais de pas avoir un switch.
Il y a des raccourcis qui devraient exister. Là.
Tu devrais pouvoir choisir laquelle tu drops là si tu veux. Tu sais, même dans fucking Mario 3D, New Super Mario Bros. U, quand tu pognes un item dans un tableau, là, dans un bonus stage, tu peux le swapper là. Okay?
Oh, mais là, c'est Nintendo.
Fait que ça, je trouve ça un petit peu épais. Puis, ben, les armes qui pètent, autant que j'aime la dynamique que ça crée, je suis dans les 10 premières heures, fait que c'est sous toute réserve, je trouve qu'ils brisent un peu rapidement. Exemple, là, sans aller dans le territoire des spoilers, dans le plateau, qui est le tutoriel du jeu, il y a un ennemi optionnel que tu peux ne jamais croiser, qui est une grosse roche.
Ouais.
Pour le tuer, là, soit que tu passes ton inventaire d'armes au complet, ou tu prends genre la seule bonne épée que tu trouves dans tout ton hostie de plateau, puis t'as scrap là. Genre. Je trouve ça un petit peu aliénant que t'aies jamais une arme descente. Dans les 10 premières heures de jeu, là, si t'as une arme descente, elle est partie. Tu prends même des armes qui sont genre borderline mythiques, là, les équipements des gardiens, qui sont supposément très résistants. C'est écrit là, très résistant. 30 coups.
Ouais.
30 crises de coups à perdre.
J'avoue qu'il devrait avoir plus d'armes qui... Pas qu'ils pètent pas, mettons, parce qu'on comprend ce que ça a comme impact, là, mais qu'ils soient plus résistantes. Là,
Ouais, je trouve que c'est un peu... T'sais, puis après ça, si t'es prêt avec des mauvaises armes, ben là, tu vas pogner des ennemis tough, t'es juste fourré. Ouais. Fait que je comprends la gestion qu'ils veulent rentrer, mais je trouve que c'est un petit peu rapide. Mais tout est un peu trop fragile.
Je te dirais, pour avoir joué pas mal plus, les armes qui ont pété, mais t'en trouves quand même fréquemment. Fait que c'est pas tellement un problème d'avoir une arme qui a de l'allure. En même temps, la gestion de l'inventaire est encore là, intense, même si tu pars... T'sais, moi, c'est pas compliqué, là, les seeds pour faire upgrader l'inventaire, là, que sur les armes.
Ouais, mais sans,
que sur les armes, genre.
Ça en dit long. Moi aussi, tu sais, j'ai pogné cette facette-là du jeu, j'ai focusé là-dessus parce que t'as pas le choix.
Mais tu sais, mais je comprends. Tu sais, puis mon inventaire est assez plein que j'en manque pas. Puis même quand j'en pète beaucoup, j'en manque pas, mais je comprends le point, puis je suis assez d'accord. Mais bon, tu sais.
Non, c'est pas un deal breaker, mais je trouve que c'est comme, sérieusement, c'est ça, après toutes vos années de développement, c'est le mieux que vous avez trouvé. OK. C'est bon, bémol. Mais cela dit, pour revenir à la console elle-même, parce que c'est sur Zelda, moi j'ai acheté la Pro Controller.
Ok, tu l'as.
Oui, et c'est probablement la meilleure manette moderne que j'ai utilisée.
J'ai pas encore essayé.
C'est vraiment.
J'ai peur de l'essayer puis de m'en acheter une.
Ouais, elle est dispendieuse. Mais évidemment, il n'y a pas les gâchettes sont pas analogues. Je sais que ça avait été relevé comme problématique. Bon, la plateforme est comme ça, mais extrêmement confortable. C'est juste comme, c'est extrêmement itératif, là. C'est une manette de Xbox One améliorée avec un D-pad de Nintendo. Puis c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que ça me prenait une manette avec un D-pad pour les jeux que j'allais jouer. Donc, très très bon controller, 90$. Faut que tu trouves une bonne raison de vouloir l'acheter, mais jamais je joue avec les Joy-Con. Jamais. C'est pas comparable. Dans le fond, ils t'ont vraiment vendu... Je trouve que maintenant que j'ai cette manette-là, c'est clair qu'ils t'ont vendu un kit qui fait un petit peu de tout. Mais ils savent que leurs gros joueurs vont acheter le Pro Controller.
Ben, je vais checker. Je vais prendre, m'en essayer puis je risque de faire comme un petit bail. Ouais. Mais tantôt, on parlait des scratchs et tout ça. Ils ont quand même adressé la question Nintendo comme quoi ils ont entendu parler qu'ils ne l'avaient pas vu avant. J'imagine
ben, que... Puis à ce que je vois, il y en a beaucoup qui ont pris la nouvelle plus tard que ça pouvait arriver puis qu'il n'y avait pas de scratch. Fait que d'abord, il y a plus l'histoire que les docks sembleraient se tordre un peu dans le transport, puis ça pourrait causer le problème.
Peut-être plus les quelques docks qui ont tordu qui font que ça frotte. Là.
Mais on est tellement tôt dans cette patente-là que ce qu'on dit là va être invalidé probablement d'ici le prochain épisode. Donc, on ne s'éternisera pas sur ça. Une chose que j'adore de la Switch, solide console de gaming, c'est tout. Le fait, là, sérieusement, il y en a qui ont chialé qu'il n'y avait pas d'application multimédia vu que c'est une tablette, mais est tellement streamliné que pour le gaming, les downloads en background ne tirent pas de jus, ralentissent jamais l'expérience. Naviguer, retourner au menu, c'est instantané. Tout le temps. Reprendre une game, c'est instantané. Il n'y a jamais de délai. Je sors de Zelda, donc j'ai un gros jeu qui roule en background. Je m'en vais dans le shop, j'achète un jeu, je retourne dans le jeu, dans Zelda. L'autre télécharge en arrière-plan. Ça n'a jamais eu un moindre délai. Ce que la Xbox One est incapable de faire, qui est pourtant plus puissante puis qui a été conçue avec ça en tête. Non, donc pas de multimédia, pas de bullshit, rien en background. C'est tellement rapide puis simple. C'est l'inverse d'un jack of all trades. On a mieux une device qui fait tout extrêmement bien. Puis l'interface de la Switch, c'est ça. C'est que de la satisfaction de ce côté-là.
Et moi, j'avoue que je commence à avoir hâte d'avoir des petits jeux comme faciles pour m'emmener. Je fais comme, OK, je vais prendre un break de Zelda, tu sais, puis jouer à quelque chose d'autre, puis j'ai le goût de jouer encore sur ma Switch. Là. J'aime tellement la console que. Mais, tu sais, il n'y a pas grand-chose comme petit jeu. Il y a une couple de jeux de 3DO, tu sais, qui sont sortis.
De Neo Geo.
Neo Geo, excuse-moi. Puis, tu sais, c'est comme, OK, j'ai vraiment le goût d'acheter ces jeux-là à comme 8$ canadiens. Tu sais, je sais pas qu'ils sont mauvais, mais.
Je sais qu'on en a parlé au dernier épisode, mais de toute évidence, personnellement, le catalogue de la Switch de la launch, que j'en entende pas un estime dire que le catalogue était faible. C'est pas ça que tu dis, mais...
J'ai hâte d'avoir, mettons, des petits titres de Virtual Console, puis des affaires que...
Et achète-toi Shovel Knight!
Ouais, mais c'est parce que c'est pas un titre de Virtual Console à 5$, tu sais.
Il est 12$ la campagne de Spectre Knight.
Ouais, mais je l'achèterai au complet, j'ai trop aimé ça.
Tu te crées des besoins, là.
Mais toi aussi.
Ben, je sais bien. Puis, ma dernière parenthèse, Blaster Master Zero.
Ouais.
J'ai pas encore joué. Okay. Je l'ai acheté. J'ai pas encore joué parce qu'il est sorti sans Pro Controller Support, qui est vraiment... j'espère que c'est pas une tendance. J'espère que c'est... on est tôt dans le développement parce que c'est ridicule.
Mais c'est un peu comme sur Metal Slug, que pour pouvoir jouer à deux avec chacun ton Joy-Con, il faut aller dans une option. Puis tu sais, c'est pas...
Les standards sont pas encore là.
Non, c'est ça. Il y a comme des petits éléments à... OK, là, si tu veux un jeu qui a de l'allure, il faut que ça se fasse automatique ou en pesant 2-3 boutons. Ou, pareil, il faut que tu supportes tous les types de contrôles.
Mais cela dit, Blaster Master Zero, au moment où cet épisode est disponible, le patch va être sorti.
OK.
Il sortait, dans le fond, jeudi, le 20... le 16.
Oh, ouais.
Donc, je vais pouvoir y jouer. Mais moi, personnellement, déjà, là, aujourd'hui, j'ai Zelda, évidemment. Mm-hmm. J'ai Bomberman. J'ai Shovel Knight.
Ah non, c'est clair.
J'ai Blaster Master Zero. Et je vais avoir Binding of Isaac la semaine prochaine ou vendredi. Bref.
Ouais, puis dans le cycle de l'épisode, on devrait recevoir... on devrait être sur le point de recevoir Lego City Undercover, le 4. Là. Mm-hmm.
Mais juste les 5 premiers titres que je viens de nommer.
Ben oui.
C'est pas des jeux que j'achète parce que c'est une nouvelle console puis je m'échange de quoi. Bomberman, fine, je l'accorde un peu là, à ce prix-là. Mais sinon, c'est 5 titres que j'aurais acheté de toute maudite façon. Donc, c'est plus de jeux que j'ai acheté sur n'importe quelle console depuis mauditement longtemps.
Non, je suis d'accord.
Donc, ça parle à la qualité.
Je me plains, mais tu sais, c'est comme de me plaindre que je voulais avoir cette Suna puis qui est fucking sold out partout en copie physique d'importation du Japon. Là.
Ouais, c'est ça, parce que ça te prend une copie importée pour l'avoir en copie physique.
Puis, ça a l'air qu'il n'y en a plus.
Donc, je pense qu'on en a assez dit.
Ouais, vraiment.
Alors, dans l'actualité, dans une nouvelle qui pousse à ses extrêmes la définition d'une nouvelle, c'est moi qui décide, lors de mon temps, passé récemment avec The Legend of Zelda Breath of the Wild, finalement, on s'en sort pas, on en parle encore, j'ai cru remarquer quelque chose d'étrange alors que Link se préparait à faire un sauté aux champignons épicés aux noix. Là. comme tous ceux qui ont joué, j'ai entendu le chantonnage là, de notre héros qui va comme suit. Mais quel est cet air familier? Il me semble que ça ressemble beaucoup à...
Je vais l'entendre à chaque fois.
C'est impossible.
Il a scrapé ma vie.
C'est un de mes collègues, avant que je joue, qui m'a dit... Shout-out à Simon, I guess, qui m'a dit... Non, mais il chante la toune des 2 minutes du sperme. Je suis comme... Non, pour vrai, là. Écoute. Il manque une note. Là. Alors, se pourrait-il que Eiji Aonuma, ou peu importe comment ça se prononce, le producteur de la série, soit un fan de Pyrrhus? Ben, l'équipe de Divan Quest a rejoué le producteur pour avoir ses commentaires. Mais malheureusement, personne de notre équipe ne parle japonais. Fait que... C'est ça.
Illuminati confirm. Je suis plus capable.
Je suis désolé. Alors, on apprenait sur le site de nouvelles technologies favoris de tous les fans de football.
La verge.
Merci. Que la compagnie de vêtements North Face publierait en exclusivité une nouvelle chanson du groupe White Denim. Bon, clairement, c'est pas sans nouvelle, là, parce que vous savez probablement pas anyway, c'est qui le groupe. Là. Mais la nouvelle, c'est que la chanson est rendue disponible seulement via le site internet seeknoshelter.com, le site de la campagne publicitaire de leur plus récente campagne pour leurs vêtements de sport imperméables. Et pour souligner ce fait, la chanson est seulement disponible sur le site via localisation qui leur permet de déterminer, en fait, s'il pleut à l'endroit où vous êtes présentement. Appuyant l'idée que leurs produits vous permettent de célébrer la pluie plutôt que de la maudire.
Donc, j'espère que je ne vole pas ton gag. Ce serait très facile de télécharger la chanson dans Zelda Breath of the Wild parce qu'il mouille carrément tout le temps.
Ben, c'est ça. Hein? Non, mais oui, effectivement. Mais c'est un petit peu de la merde pour nous autres sites parce que le site ne considère pas la neige comme un substitut alors que la chanson reste verrouillée même quand on a une hostie dans le cul comme on a aujourd'hui. Mais voilà, hein, comme Dan vous l'a bien dit, Link pourrait pas mal l'écouter quand ça y tente, parce que c'est-tu qui mouille tout le temps dans ce jeu-là. Ben écoute, Link pourrait sûrement l'écouter, là, il doit avoir un browser sur sa Aishika Slate.
Ah oui, c'est clair.
Parce que, hey, c'est-tu la métaphore la plus mince pour un crise de smartphone, cette tablette-là?
Écoute, ça n'a pas de sens.
Hey, tu downloads des apps anciennes?
Pour vrai, genre, je veux quand même un case pour mon téléphone pour... de Chica Slate. En plus, la grosse IQ, mon Nexus, ça...
Bon, mais je pense que... Écoute, faut qu'on arrête de parler de Zelda.
Ouais, bonne idée.
Parce qu'on a atteint le peak Breath of the Wildness dans l'épisode. Alors, finalement, le site de presque nouvelles technologiques Kotaku nous relatait une histoire un peu douloureuse ayant lieu lors du Street Fighter V French Cup, qui est évidemment un tournoi majeur de Street Fighter V en France. Lors de l'événement, le groupe de musique rock mélodique Necolite Orchestra a été engagé pour faire une prestation. Le groupe est connu pour ses spectacles de musique basés sur des dessins animés japonais, des films et des jeux vidéo. Donc, vraiment pas un mauvais fit pour un événement du genre. Mais, un des membres du groupe décida qu'il était temps de faire participer la foule en demandant au Street Fighter présent de répondre à son cri. Ça s'est passé comme suit. Bon, c'est peut-être pas aussi évident à l'audio qu'en vidéo, là. Fait qu'on a enhancé l'audio pour que vous puissiez bien comprendre la situation.
Attention! Attention! Hadouken! Hadouken! Hadouken!
On vient de perdre Dan.
Fréquemment aujourd'hui.
Toxy, malaise.
Il s'attendait qu'on réponde quoi? Shoryuken?
Je pense qu'il voulait que les gens crient Hadouken. Ne demande jamais à des gens qui ont été habitués de ne pas participer soudainement de participer.
Ouais.
Ça qui est ça.
À venir dans l'univers de Divan Quest, dans les semaines du 20 mars au 2 avril, je commence avec le 21 mars sur bien des consoles, PC, Xbox One, PS4. Donc, l'objectif est de donner aux joueurs un niveau de liberté sans précédent, ont des difficultés. Partout où vous allez, vous cherchez des façons dont vous jouez avec lui. Laissez la Voie lactée derrière vous et la tête des marais, où nous avons rencontré de nouveaux partenaires, seront responsables de nouveaux ennemis et explorer de nouveaux domaines d'intérêt.
Mass Effect Andromeda?
Je l'ai choisi pour toi, celle-là, Matt.
Ouais, je jouerai tellement pas de suite. Je suis pogné dans Zelda.
C'est fuck off, je joue à Switch. Je vais avec le 24 mars, un film. Les porteurs suivent un adolescent qui, normalement 5, sont devenus extraordinaires si elle constate qu'une ville d'ange est le monde et l'ennemi avant l'annulation de la menace comme un étranger. Sélectionnez futurs, nos héros, le plus tôt possible pour trouver seulement ceux qui peuvent sauver la Terre. Mais pour surmonter les problèmes de la vie réelle, trop tard, le groupe verrait le suivant.
Elle ne sait pas, Chris.
This is your time.
Hey, essayez de rendre le thème des Power Rangers badass, là. C'est terrible.
T'aurais dû clipper le gag de gag semi-raciste que j'ai vu dans le preview, là. Ouais. Parce que t'as le dude qui est comme le Power Ranger noir, qui est un blanc, tu sais, qui dit au gars qui est Power Ranger bleu, mais qui est black, « I'm black, no you're not! »
Ouais. Ouais, ben j'espère que le film est très, très self-aware, parce que d'essayer de faire de quoi de sérieux... Tu sais, je sais qu'il y a une nostalgie pour les Power Rangers, tout à fait comprenable,
ah oui.
Mais... C'était assez volontairement de la merde.
Ben oui, c'est ça.
T'sais, fait que prenez pas ça au sérieux, s'il vous plaît, là.
Je sais pas. J'ai, ouais. J'irai pas voir au cinéma, là. Mais...
En tout cas.
J'ai un bonus, puis je pense pas qu'on va le trouver, celui-là, mais quand j'ai vu le titre, j'ai dit faut qu'on en parle. Un bonus pour le 31 mars, une sortie sur Steam. Après le succès viral en 2016, quand la merde dans ma soupe de retour est meilleure que jamais. Avec le nouveau 3 pour chaque merde sur les cow-boys et les indiens, pirates de l'enfer, l'enfer sur les morts vivants, va te faire encule.
What the tabarnak de fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, premièrement, on a une obligation légale, là, de... Non, l'autre.
Ah oui, oui, ben j'y arrivais bientôt. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Ah, en fait, le jeu, c'est There's Poop in My Soup Number 2.
Est-ce que le number 2, c'est parce que c'est un sequel ou parce qu'on réfère au poop?
Je pense que c'est les deux, mais c'est un sequel. De celui de 2016, là.
Ah, ben oui.
Donc, ça a l'air qu'on peut chier sur des cowboys, des indiens et chier sur des pirates. Mm-hmm. Je suis pas sûr si je vais faire une review de ce jeu-là, même si on peut chier sur des pirates. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
Ben oui, c'est le moment qu'on prend dans l'épisode pour remercier nos Patreons qui ont d'ailleurs eu droit la semaine dernière à l'épisode bonus Patreon. On a eu un peu de feedback sur l'épisode, ça a été bien apprécié.
Ouais.
Merci parce que c'était un épisode qui était un petit peu différent, très, comme on disait là, un peu plus personnel, un peu plus anecdotique.
Ouais.
Puis vous avez aussi entendu par contre la semaine dernière... un des résultats quand même de
notre
de,
consultation.
Exact, de la participation des Patreons, en fait, avec l'épisode de Monsieur Montréal, appelons-le Propos. Hein? Je pense qu'on est rendu assez familier, je pense que je peux me le permettre, de notre épisode sur l'émulation. On va leur faire un épisode pour les Patreons aussitôt que le temps nous le permettra, parce que ça a été fort agréable.
Ben oui.
Puis ça nous permet aussi d'approcher des sujets qui, qu'on pense, seraient peut-être moins destinés à tout le monde. Donc... à suivre, mais merci à nos Patreons.
Gros merci aux Patreons. Puis en passant, parenthèse, s'il y en a qui ont des idées de sujets pour les causeuses, là, je l'ai dit sur Facebook la semaine dernière, même si vous ne payez pas, vous avez le droit de donner vos idées. Tu sais, voilà.
On vous remerciera juste pas.
C'est ça. On va juste vous voler vos idées.
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Imagines-tu si... il y avait un jour Chrono Trigger qui était aussi engageant pour moi que Zelda, je pense que je serais obligé de lâcher ma job.
Ouais, une chance qu'il n'y ait pas eu un jeu de Shadowrun aussi engageant que ça, on ferait partir un autre pod. Alors oui!
Aujourd'hui, dans l'univers du Divan Quest, nous sommes le 20 mars. Je commence ça en moins 44.
Okay.
Question d'être récent. Lecture publique du testament de Jules César où il lègue au monde sa délicieuse recette de salade. Oui.
Oui.
À l'oreille, on confirme que oui.
Voilà.
J'avance en 845, première apparition des Vikings aux portes de Paris, après avoir tenté de se trouver un stationnement pour leur bateau là, dans le 7e arrondissement pour aller voir le futur site de la construction de la Tour Eiffel. Ils ont décidé qu'il y aurait plus de plaisir à venir s'établir sur les côtes de Terre-Neuve.
Bon move.
Bon move, hein? Mm. Vraiment? Oh oui.
C'est comme, non, mais tu sais, des Vikings, là, à quelque part, là.
C'est proche. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. J'avance en 1342. Instauration, oui, en France, de la gabelle. La gabelle est une taxe sur le sel qui était alors sous monopole royal.
Aïe, aïe.
Oui, on se rappelle qu'à cette époque-là, le sel était très, très utile pour la conservation des aliments, donc une denrée très, très comme courue. Cette taxe, dans le fond, c'est à peu près 6% des revenus du royaume à l'époque. Puis après ça, on chiale contre le monopole de la SAC.
Ouais, la taxe à la cigarette, puis l'idée d'une taxe sur le sucre. Je dis pas que c'est une bonne idée, là, mais pas une idée neuve.
Hein. Ben, non, à la différence que le sel était un élément comme essentiel à cette époque-là.
Ouais, il y en a un qui est utile, l'autre, c'est une cigarette puis du sucre.
C'est un peu ça. 1503, parce qu'il n'y a pas que les Anglais et les Français qui faisaient des moves un peu mauditement racistes à l'époque. L'Espagne énonce une série de mesures qui visent la sédentarisation et l'évangélisation des Amérindiens, qui s'appelait l'instruction de Saragosse. On aime ça, le racisme.
Bon, j'ai entendu gosse, j'ai ri.
OK. gosse. Voilà. J'avance en 1942. Le général Douglas MacArthur est contraint d'évacuer les Philippines devant l'avancée des forces japonaises et déclare...
I'll be back.
Bon. Je pensais qu'elle allait dire hold my beer.
C'était pas un arrangement d'époque, mais c'est vraiment la phrase qu'il aurait dite. 1995, j'avance un peu avec les attentats terroristes au gaz sarin dans le métro de Tokyo qui feront 12 morts et plus de 5500 blessés là, quand on compte les paralysies temporaires et tout. Là. Oh, ouais, quand même. Le bilan aurait pu être beaucoup plus sévère si la qualité du produit avait été meilleure. Réellement, imagine.
Wow.
Oh. Ils n'ont pas engagé Walter White. 1998, première tenue de la fête de l'Internet en France. On your mark,
get set. We're riding on the Internet. T'aurais pu en trouver une en français, quelque chose?
En fait, ils ont volé l'idée de toute façon aux Américains je pense que c'était Internet Day, là, mais en tout cas, une affaire de ce genre-là, qui était une journée pour. Dans le fond, faire la promotion d'Internet parce que la France avait constaté qu'il y avait un retard beaucoup dans le développement de la connexion des web et Internet. J'avance en 2000 avec le début du procès pour tentative d'évasion de Marc Dutroux. Faut encore l'idée de c'est qui Marc Dutroux, mais je trouve ça poétique qu'un gars qui s'appelle Dutroux et qui tente de s'évader de prison. Je fais un petit retour. Ben, je me suis fourré dans mes notes, fait que je reviens un petit peu en arrière. 1965, c'est pas si loin. Là. Lancement par la NASA de Ranger 9, une sonde lunaire qui ira s'écraser violemment sur la Lune juste après envoyer des photos haute définition de la surface. C'était comme l'idée, le but. Depuis ce jour, en hommage, des gens se pètent la gueule en prenant des selfies. Et Matt, tout ça drôle.
Je trouve ça toujours drôle du monde qui se pète la gueule.
C'est clair. J'avance en 1990, sortie de Diablo sur le Sharp X68000, cet ordinateur merveilleux dont tous se souviennent.
Bien sûr,
ouais,
au c'était... Japon seulement.
Ouais, c'était Diablo.
C'était pas le... En quelle année?
90.
Fait que c'était pas le même Diablo.
Ah, probablement.
la réalisation soudaine que Blizzard n'existait pas en 90.
Ouais, puis en tout cas, c'est pas grave. On parlait d'un vieux ordinateur, je trouve ça tant drôle.
C'est moi qui t'en apprends sur... Pas Blizzard.
Ouais, c'est pour ça. J'ai juste pas réalisé. J'avance en 92. Sortie de Minesweeper sur TurboGrafx CD.
Oui, CD.
C'est une version skinée du même maudit jeu plate qu'il y avait sur Windows, là. Mais avec des petits dessins.
Avec de la musique qualité audio, qualité CD.
Ah, probablement, j'ai pas écouté de musique pour.
on va survivre.
J'avance en 96. Je reste encore dans les sorties de jeu un peu. Sortie de Need for Speed au PS1, le premier de la série.
Oui.
Puis ça n'a pas tout le temps été bon par la suite, là, mais il y en avait des bons.
Need for Speed 1 et 2 sont écœurs. Ouais.
J'avance en 2014, Mario Party Island Tour sur 3DS.
Ah.
Puis un an plus tard, Mario Party 10 sur la Wii U, que j'ai beaucoup aimé. Okay. Je vais le souligner. Il est quand même le fun. Il y a différents modes de jeu.
Il est bon. Il y a plusieurs modes de jeu. J'ai apprécié.
J'ai apprécié. On peut jouer avec les amiibos. Bon. Puis en 2017, sortie de Mario Party 11 sur la Switch. Ah, puis pour ceux qui diraient que je dis des faussetés, là, que Mario Party n'est pas sorti aujourd'hui sur la Switch, j'ai Kellyanne Conway qui est prête à vous répondre.
Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative that facts?
C'est, on ne se tannera pas, hein, des hosties d'alternative facts.
Ah, j'ai du plaisir. Maintenant, je peux dire des affaires pas vraies sur le pod puis dire c'est pas des faussetés. C'est des alternative facts. Ou, ben non, mais ça peut pas être faux, c'est mon opinion. Puis une opinion, c'est toujours vrai. Ah. En tout cas, hein, on va changer de sujet avant que je pète une coche.
Happy birthday to you.
Ça me calme toujours, M. Miyagi. pour les naissances, je reviens aussi en moins 43, hein, tout près de la salade César. Naissance du poète latin Ovid, auteur de cette fameuse ritournelle.
Dans un coin
ah, si j'étais sûr! Yes!
Un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovid.
Je me rappelle pas de l'accent de la fille, genre, qui vient probablement de Saint-Eustache.
Ah, c'est-tu que c'est hot?
La bande à Ovid, ouais.
Si c'est pas un drop de la bande à Ovid, je flippe la table. C'est tout.
J'avance en 1800. Dans une lettre écrite... Ah, je suis tout croche aujourd'hui. C'est pas grave. Dans une lettre écrite au président de la Société royale de Londres, Alessandro Volta va annoncer son invention, la pile voltaïque, dont les versions subséquentes permettront à Karen de jouer à Mario Kart sur le toit de son voisin. Puis désolé pour le fuck dans les notes, là. 1939, naissance du futur 18e premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney. Bon, je connais pas bien le gars qui a été élu là, premier ministre comme un mois après ma naissance, puis jusqu'à temps que j'aie 9 ans. Je pense pas que j'aurais trippé sur ses opinions politiques, pour être bien franc. Par contre, j'ai trouvé une citation de lui qui devrait être écrite en caractère comme grosseur 212 là, sur le bureau de chaque élu à l'Assemblée nationale. Ça dit « Les leaders ne doivent pas gouverner pour avoir une manchette favorable dans 10 jours, mais pour avoir un Canada meilleur dans 10 ans. »
C'est plein de bon sens.
Quand même, hein? Et pourtant, si peu appliqué. J'avance en 1948, une naissance pour toi, Matt. Mm-hmm. Bobby Orr.
Oh, nice.
Bon, je sais que t'es pas supposé aimer ça, un joueur de hockey qui a joué pour Boston puis Chicago, mais c'est sa fête pareil.
Ah oui, c'est vrai, il a joué pour Chicago. Ça intéresse tellement personne. Il a tellement fait sa fame à Boston. C'est un pilier du hockey à Boston.
J'avance en 1961, naissance du scénariste québécois Stéphane Laporte. Ben, je voulais y écrire un gag inspiré de ses clins d'œil, là, mais je suis pas capable d'être aussi impertinent.
Oh, okay. Impertinent, hein?
Plate, oui, mais...
C'est ça, OK.
Ouais.
Ben, t'as réussi.
Yeah! 1987, naissance du joueur de hockey dont le nom a fait rager de nombreux commentateurs ex-commotionnés, Sergei Kostitin.
Calé.
Kostitin... puis 1989, naissance du réalisateur, scénariste, producteur, monteur, décorateur et acteur québécois, Xavier Dolan.
C'était sûr.
Dont la popularité a piqué dans sa célèbre pub de porc haché.
What? Des hamburgers, des
hamburgers, que je t'aime, que je t'aime. Non, tu te rappelles pas, il y avait une pub de porc burger, c'était lui le kid qui...
Je savais pas. Je suis vraiment comme isolé de la télé dans vie.
C'est genre une pub de 90, là.
Ouais, mais je savais pas que c'était lui.
Ben, c'est ça. C'est pas grave.
C'est encore meilleur, j'adore ça.
Je suis né avec mon dicton. Hein? Quand il gèle le 20 mars, il gèle toute l'année.
Ben voyons donc. Ben voyons.
Oh, dans merde.
Blade and Steel.
On va parler de Twitch encore! Merci.
Bon, mais dis que tu parles d'autres consoles. Il est sur d'autres consoles.
Pas encore.
Ouais,
alors, cette semaine, moi, je vais vous parler de Spectre of Torment, le nouveau contenu disponible pour Shovel Knight.
Les choses rentrent dans l'ordre. C'est toi qui parles de Shovel Knight, ce fois-là?
Yes. Il y a un peu de justice dans ce bas monde. Évidemment, Spectre of Torment, en fait, Shovel Knight, Spectre of Torment, développé et publié par Yacht Club Games, disponible en exclusivité temporaire sur la Switch depuis la sortie de la console en question, donc le 3 mars. et sera disponible sur toutes les plateformes où Shovel Knight est disponible. Donc, pas mal toutes au courant du mois d'avril. On n'a pas de date plus précise pour l'instant. Premièrement, il faut faire la distinction. La nouvelle campagne est disponible dans deux formats, comme on a vaguement fait allusion tantôt. On peut acheter directement Spectre of Torment pour 12$ et des poussières, ou on peut acheter le Shovel Knight Treasure Trove, qui est un nom un petit peu stupide, à mon avis. Ça devrait juste être une Complete Collection ou quelque chose de clair comme ça, parce que toutes les versions vendues à ce jour de Shovel Knight deviennent, en fait, le Treasure Trove, c'est-à-dire la campagne principale, qui s'appelle maintenant Shovel of Hope, qui est le Shovel Knight standard, la campagne de Plague of Shadows, qui est la campagne de Plague Knight, le mode de combat qui va venir bientôt, et toutes les options, etc., et incluant, bien sûr, Spectre of Torment, la campagne de Shovel Knight, qui est maintenant disponible.
Puis toi, t'as fait quoi? T'as acheté?
J'ai acheté le Treasure Trove parce que j'étais pas de même. J'ai déjà...
Tu me jugeais après. Hein?
Ouais, mais moi, j'ai pas chialé que c'était pas un petit jeu pas disponible. J'ai déboursé et c'est tout. Parce que ça reste quand même... c'était 28$ au moment où je l'ai acheté. Il y a eu un ajustement de prix parce que c'est 25$ US.
Ouais, mais je pense pas que c'est juste ça. Je pense que... Moi, j'avais, je me posais des questions là, si quelqu'un en parlait. Puis ils ont annoncé aussi que toutes les versions... précédente, il allait aussi être ajusté dans le prix. Il allait augmenter de quelques dollars pour devenir le Treasure Trove.
Mais bon, whatever, cela dit, pour 25$ US, la collection complète, ou sinon, pour seulement 12$, Spectre of Torment. Et si vous voulez mon avis, je saute un petit peu des points, mais ça vaut beaucoup plus que le 10$ qui coûte juste Spectre of Torment.
Ah, c'est clair.
Ce qui fait que le package lui-même que vous avez peut-être acheté si vous êtes fan de Shovel Knight prend de la valeur de façon incommensurable par l'ajout de Spectre of Torment. Je vous laisse deviner le nombre de pattes que j'ai donné à la fin. Donc,
8!
il est un petit peu difforme. Mais il n'y a pas de Ouya. Okay. Donc, Spectre of Torment, c'est une campagne complètement nouvelle. Donc, on joue l'histoire de Spectre Knight, en fait, connu de son vivant comme Donovan, parce que l'histoire est comptée partiellement entre les tableaux qu'on fait en tant que Spectre Knight, bon, dans la forme qu'on le connaît, pratiquement dans la forme qu'on le connaît dans Shovel Knight, mais au cours de l'histoire, il y a plusieurs flashbacks où on joue Donovan de son vivant, qui étend beaucoup finalement la formule narrative de Shovel Knight de façon super intéressante. L'histoire évidemment est un peu plus sérieuse, il y a toujours l'humour qu'on connaît à Shovel Knight, puis by the way, là, je prendrai pas le temps de redéfinir tout ce que Shovel Knight fait dans cet épisode, allez écouter l'autre ou de grâce, fucking allez jouer, vous le devez. Mais le jeu, bref, se contente de construire sur ce qu'on connaît comme point de départ. Donc, si vous n'avez pas joué à Shovel Knight, c'est peu probable que vous allez jouer à Spectre of Torment de toute façon. Puis c'est à ce monde-là que ça s'adresse. Donc, l'histoire est beaucoup plus sérieuse et plus mélodramatique parce que c'est un personnage qui a une histoire plus tragique. Puis ça sert, par contre, au jeu à faire des choses différentes. Mais l'humour traditionnel est quand même là. Il y a quand même des affaires ridicules, des personnages vraiment, vraiment extravagants. Surtout dans l'environnement central du jeu. Parce que contrairement à Shovel Knight, on n'a pas une carte du monde à la Mario 3. On a tout simplement un hub world qui ressemble beaucoup plus au village dans Shovel Knight,
okay,
mais avec un endroit où on peut aller démarrer les tableaux. Les tableaux, dans le fond, ça marche à la Mega Man. C'est-à-dire qu'on peut choisir tous les tableaux dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de restrictions parce qu'évidemment, il n'y a pas de dépendance. Ce n'est pas un Metroidvania. Là. Ça ne prend pas tel skill pour faire tel tableau par la suite. Donc, on peut les approcher comme on veut, sans aucune restriction. Puis le hub world, ben, je disais, je le comparais au village de Shovel Knight. Là. Évidemment, on a tous nos shops qui sont là, donc tout le monde peut nous vendre des trucs. Ça se ressemble beaucoup. Mais évidemment, ça se trouve être la tour de l'enchantresse, donc de la grosse méchante dans Shovel Knight.
Ben oui, hein.
Donc évidemment, c'est plus tout est plus dark, tous les bonhommes sont plus comme des morts vivants. Il y a plein d'ennemis qui sont des personnages à qui on peut jaser. Mais les personnages sont super intéressants, comme Yak Club Game. Je vais l'avoir un jour, c'est si bien le faire. Donc, on a des personnages qui vont avoir comme leur petite micro-histoire qui va évoluer à travers tout le jeu, même si ça n'a aucune importance.
Ouais, mais c'est ce qui est trippant de ce jeu-là. Puis c'était un peu la même idée pour... je ne l'ai pas fait au complet, là, mais la campagne de Plague Knight, mm-hmm, qui était entre les deux, là, entre Shovel Knight de base puis celui-là. Là.
Ouais.
Puis c'est un peu ça aussi. Là. C'est comme tu refais un peu la même campagne en parallèle, mais tu es comme... t'as un agenda, ou en tout cas, t'as comme ton propre but, puis mm-hmm. mais tu parles à du monde. Puis, non, c'est.
Ah, ben, c'est ça, il y a plein de personnages qui n'ont pas d'importance, mais qu'on leur construit un univers pareil parce que pourquoi pas.
Pourquoi pas, ouais.
Y a d'ailleurs le marchand principal, celui qui nous vend nos Curios. Les Curios, en fait, sont les power-ups majeurs du jeu, qui sont un peu comme à la Castlevania, là, les fameuses armes secondaires qu'on équipe. Ce vendeur-là est une espèce de squelette, en fait, mais qui est un chasseur, puis qui, lui, cherche principalement à trouver une tête de squelette rouge, parce qu'il est rouge lui-même, devrais-je préciser. Il cherche une tête de squelette rouge avec qui il est tombé en amour dans ses voyages. Il ne l'a jamais retrouvé. Fait que ta monnaie d'échange avec lui, c'est les têtes de squelette rouge.
Pour trouver la bonne, genre.
Exactement. Mais c'est magnifique parce que ça rentre une dimension dans Shovel Knight qu'il n'avait pas exploré avant, que je trouve qui est. En fait, qui fréquente dans ce que Mario le fait beaucoup. Nintendo avec Mario le font souvent, c'est-à-dire d'avoir des objectifs secondaires dans un tableau juste pour ceux qui veulent explorer. Ouais, donc ouais. Là, non seulement oui, tu ne trouveras pas juste du cash puis des cossins, tu vas trouver les têtes rouges qui deviennent ta monnaie d'échange pour tes upgrades d'items. Il y en a une dizaine par tableau habituellement. Puis le jeu garde trace de ça dans l'interface quand on choisit un tableau. Donc, il y a un focus pour les complétionnistes à trouver toutes les têtes rouges. Mais bon, cela dit, on peut choisir les tableaux dans l'ordre qu'on veut. Et une fois qu'on démarre le jeu lui-même, en fait, ce qui distingue beaucoup Spectre Knight de Shovel Knight, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup plus mobile. Puis en fait, s'il y a de quoi, et dans un des grands compliments que je peux faire à ce jeu-là, le système de contrôle ressemble beaucoup à Ori and the Blind Forest, qui est un de mes jeux préférés des dernières années.
Ouais, tu en as déjà parlé un peu, je pense pas qu'on en a parlé sur le pod.
Pré-podcast, je crois, dans nos premiers tests. Mais bref, c'est un jeu où on a une grande, grande mobilité de déplacement. Et là, je parle autant de Ori que de Spectre of Torment. on a beaucoup de mobilité de déplacement et on doit faire du platforming non standard.
Dans un jeu en 2D, c'est impressionnant.
Puis c'est tellement satisfaisant parce que la précision d'un platformer 2D, de devoir... En fait, ce qui fait que le jeu là, ressemble beaucoup à Ori, c'est qu'on peut... Quand on est en vol, c'est un peu difficile à expliquer, là, mais bon. Quand on est en vol, quand on n'est pas au sol, on peut toujours attaquer les objets qui sont en l'air ou même au sol et les ennemis. Et quand on les attaque, on va, bref, se diriger rapidement dans leur direction. On va voler directement vers ces ennemis-là, puis on va les traverser dans un angle, dans le cas de Spectre of Torment, de 45 degrés, toujours. Ce qui fait qu'on peut rester dans les airs de façon permanente, si on veut. Tant qu'il y a quelque chose sur quoi on peut rebondir, sur quoi on peut se propulser pour rester en l'air. Ce qui permet de faire des tableaux où on touche pratiquement jamais au sol, de faire des segments très, très difficiles. Il y a des tableaux verticaux où la caméra avance par elle-même, comme on connaît beaucoup dans les jeux rétro 2D. Mais là, pendant des segments, pendant des longs bouts de ça, si la caméra est lente, on doit tenir en l'air pour progresser. Il faut se tenir en équilibre tout simplement en rebondissant sur des objets dans l'environnement. C'est difficile, ça demande de bien maîtriser le système de contrôle. C'est la perfection d'un contrôle en 2D de demander à un joueur de faire ça.
Puis tu sais, ce qui est cool de ça, c'est que, ben pour ceux, probablement tout le monde qui ont joué à Shovel Knight, qui joue à ça après, majoritairement, tu reconnais là, le boss contre qui tu t'es battu, là, puis qui te gossait à se téléporter puis à te slasher en volant. Et,
ouais,
c'est et moi, ça. Il m'a fait tuer là, comme solide, pas avec Shovel Knight trop, mais avec Plague Knight. Ouf, le meilleur que le combat se fait avec des petites bombes, là, c'était pas évident.
Puis le jeu, ça fait un malin plaisir. Je saute des étapes là, dans ma review, mais le jeu, ça fait un malin plaisir de jouer sur tes attentes par rapport au boss. Parce qu'il sait que tu les as vus, les boss de Shovel Knight.
Deux
connaît.
Fois, majoritairement.
Et voilà. Fait qu'il va les remixer pour te les pitcher, puis des fois, justement, de façon inattendue. Fait que ça devient un bel hommage finalement à ce qu'ils ont construit avec Shovel Knight. Bref, ce qui fait que Spectre of Torment va se différencier beaucoup, c'est qu'on change carrément le focus du level design puis de la façon de traverser les environnements. Parce que oui, il reste qu'il y a des ennemis, mais on en vient presque à oublier nos capacités offensives en dehors de comment je peux utiliser cet ennemi-là pour traverser l'environnement. Ça renouvelle la formule de Shovel Knight d'une façon qui ne devrait pas être permis dans quelque chose qui est juste une expansion gratuite pour la plupart du monde.
C'est ça.
c'est un témoignage à la capacité de ces développeurs-là de faire quelque chose de nouveau avec ce qui existe déjà.
T'sais, c'est quand même incroyable quand tu parles de DLC souvent qui est un peu poche ou que c'est pas grand-chose, puis qu'eux autres, c'est comme c'est gratuit, là, c'est un ajout gratuit, c'est un update, c'est une patch, puis que dans le fond, ils revisitent leur univers à chaque fois, puis il développe de plus en plus à chaque fois. Là.
Il aurait pu se contenter de skinner le personnage puis te faire jouer la même affaire. Ouais, là. Ouais. On est complètement à l'opposé de ça. C'est parfait. Puis comme je disais, par rapport au power-up qu'on obtient, en fait, avec notre fameux vendeur squelette à la tête rouge, Après chaque tableau, en fait, il nous offre un nouveau power-up qu'on peut acheter. Donc, le cycle de déverrouillement est tout simplement, tu as fait un tableau, en voilà un nouveau. Honnêtement, c'est assez peu nécessaire, ces power-ups-là. Mais ils sont quand même intéressants. Il y a les classiques, là, comme je disais tantôt, il y a la... T'as une faux que tu lances, comme les haches dans Castlevania. Puis t'as un item qui te guérit, donc qui peut facilement baisser le niveau de difficulté si t'en arraches. Donc pour tous ceux qui veulent pas se casser le basic avec le niveau de difficulté, qui est évidemment assez élevé, parce que c'est la nature de ce genre de jeu-là, on a cette option-là, qui est encore plus facile en fait pour se guérir que les potions qu'on avait dans Shovel Knight. Mais à part de ça, la plupart des autres items sont des autres curios. Sont très intéressants, ils font vraiment des affaires flyer avec les mécaniques du jeu, mais c'est juste pas tellement nécessaire. Comment qu'on se déplace dans l'environnement, c'est plus que suffisant pour faire les tableaux, puis vu qu'on peut faire les tableaux dans l'ordre qu'on veut, ben ils peuvent pas dépendre de ces skills-là pour te faire progresser. Donc. Ensuite, je peux pas parler d'un jeu dans l'univers de Shovel Knight sans parler de la musique. C'est principalement des remixes de la musique de Shovel Knight. C'est sûr que c'est familier, mais comment construire sur un soundtrack qui, il me semble que je l'ai dit souvent ce mot-là depuis le début, mais qui est essentiellement déjà parfait. Donc, c'est dur de s'en plaindre. Par contre, ce que j'ai remarqué, puis j'aimerais ça avoir des fois l'input de quelqu'un qui s'y connaît plus en musique que moi, mais j'ai l'impression que les techniques utilisées dans les pièces de Spectre of Torment sont plus inspirées de la musique de Konami au NES que la musique Capcom, très très Megaman qu'on avait dans le premier. Donc les remixes utilisent des techniques qui créent quand même une certaine différenciation dans la musique.
Ouais.
J'ai choisi d'ailleurs deux extraits qui mettent ça en lumière. Finalement, le dernier point en fait à apporter, c'est que le jeu offre un défi additionnel. Oui, il y a les challenge levels comme on a eu dans Shovel Knight, mais on a une tour. Quand on est déjà dans la tour, le hub finalement, il y a un personnage qui s'appelle Horus, qui est un espèce de chevalier, une armure vide finalement, sans le casque, donc décapité, qui nous offre un petit défi parce qu'il s'emmerde, puis pour se divertir, a créé un défi qui est une tour composé d'une cinquantaine d'étages. Mais en fait, quand on dit étages, il faut comprendre que c'est des sections de platforming. Bref, c'est une espèce de mini roguelike. Donc, on a une tour qu'on doit monter où est-ce qu'on se fait poursuivre par Horus lui-même, qui a comme une ligne dans le bas de l'écran, bref, qui nous rattrape, où on doit exécuter parfaitement le parcours pour se rendre jusqu'en haut. Mais le parcours change à chaque fois. Uh-huh. C'est tous des morceaux bien designés qui demandent du platforming super serré, donc de nos mécaniques de se projeter sur les ennemis, de courir sur les murs, de glisser sur notre faux. Bref, ça nous demande d'optimiser au maximum. C'est du speedrunning roguelike. C'est du Super Meat Boy dans Spectre of Torment. C'est dur que le tabarnak. Ça n'a aucun bon sens. Ma blonde s'est sauvée de la pièce parce qu'elle était tannée de m'entendre sacrer. Mais j'avais du fun.
Pareil, ouais, c'est
pareil.
Ça.
c'est ce niveau de défi-là où ça devient de l'acharnement, puis tu sacs pour ton incapacité de battre le jeu, mais c'est juste, encore une fois, la perfection du platforming, de te demander ce niveau de précision-là à chaque moment pour le traverser. C'est un super beau défi. Pour un jeu qui, à part la tour, là, à peu près 4 heures,
okay.
Rajoute la tour, 6 heures.
Ah, okay. Quand même.
J'ai facilement 2 heures pour avoir réussi à finir la tabarnak de tour. Mais c'est probablement la pièce centrale du jeu pour moi, tellement que ça a été difficile, demandant et ultimement satisfaisant.
Ben oui.
Donc oui, plus court que Shovel Knight à environ 4 heures. Mais le prix est en conséquence, là, à peu près à 12$ pour la campagne, si vous n'avez pas déjà une version précédente du jeu. Puis si vous en avez déjà une, ben ça n'a pas de sens la valeur que vous gagnez pour le prix de 0$. Donc quand ça va être disponible, il n'y a aucune raison de ne pas prendre le temps d'y jouer. Donc, personnellement, comme je l'ai dit, je pense que j'ai plus aimé ça que le Shovel Knight original. Le fait que ça me fait penser à Ori and the Blind Forest, c'est clair qu'il ne s'ennuie pas. Le challenge d'avoir du platforming comme ça, qui est hyper tight, c'est probablement ce que j'aime le plus dans le gaming, là. Donc, évidemment, pour moi, c'est un 4 pattes de divan mort-vivant là, avec un passé tragique. Là. Le divan et les pattes, là, évidemment.
Ben, c'est sûr. Quand on commençait à jaser de pour préparer le podcast, là, on m'a fait savoir poliment que non, je pouvais pas parler de Zelda 2 épisodes de suite. J'ai des preuves de ça.
Est-ce comme Dan, lâche-toi ton calice de Zelda, là, c'est assez. Là.
Sac! La qualité audio, les amis.
Ouais, c'est ça. Il m'a enregistré ça sur son téléphone le matin. Ouais, fait que je pouvais pas en parler. Fait que fallu que je me trouve. J'ai boudé un peu. Puis je me suis demandé à quoi j'avais assez joué dans les dernières semaines pour en parler au moins un peu. Puis en gossant sur mon sel, ben j'ai pensé que pour faire un petit retour sur un jeu mobile. Avec un jeu qui a quand même occupé pas mal de mes heures de végétude là, sur le divan finalement. Là.
pour permettre à ta. De se recharger
de temps en temps. Ben, c'est ça, de temps en temps, tu sais. ben non, pas, c'est ça. Donc, je parle de Pokémon Duel sur mobile, là, qui est sur plateforme Android ou iOS. Là. Mm-hmm. Donc, ben, faut que je sois honnête, là, j'ai pas mal joué dans les premiers jours où j'ai downloadé le jeu. Quelque part entre le 26 février et le 3 mars, mettons. Fait que je vous laisse deviner ce qui fait que je joue pas mal moins depuis ce temps-là.
Je sais pas comment le monde pourrait deviner. Là. Le monde connaisse pas ta vie, Dan, voyons donc. Ah, ouais.
Fait que, ben oui, je suis tombé sur Pokémon Duel en gossant sur le Play Store, là, comme souvent à la recherche d'un petit jeu que je pouvais jouer ben, dans le métro. Là. Des jeux qui se jouent bien dans le métro, puis comme j'habite en campagne, des jeux qui se jouent bien assis à la bas.
La finesse de ce gag! Ah,
oui. Épisode 2 de Divan Quest. Je m'en ennuyais, fait que j'essaie de le ramener.
T'es tout seul.
Fait que, c'est ça, ça faisait une couple de semaines que je voyais le jeu passer là, qui était sur le store. Puis, ben, comme on a déjà parlé, là, je trippe pas tant sur les jeux style freemium. Mm-hmm. Tu sais, trop été échaudé avec ces jeux-là. Là, puis, avec le potentiel qu'on voyait, mais que j'étais tant bloqué en arrière d'un mur qu'il fallait que je pige du cash. Là. Fait que je pensais pas vraiment au jeu. C'est aussi le genre de jeu que quand tu regardes les images sur le store, ça te dit rien, pas en tout du gameplay. C'est juste genre des éclairs, des piou-piou, puis montrer qu'il y a bien de l'action, là, mm-hmm. mais sans trop savoir quel genre d'action. Puis généralement, ça me turn off pas mal, ce genre de truc-là. Mm-hmm. Mais bon, hein, je venais de finir d'écouter un épisode des Pays d'en haut, là, puis tel un séraphin qui donne deux scènes à siffleux, je me sentais lousse.
Sac! La référence, les amis.
Ah oui, c'est ça. Puis je suis fan de Pokémon, on le sait. Fait que je me suis dit qu'il fallait bien que je l'essaie. Au pire, j'aurais quelque chose à dire dans l'intro d'un podcast là, où je pourrais basher sur un jeu. Fait que, qu'est-ce que Pokémon Duel? Ben, c'est un jeu mobile publié directement par The Pokémon Company, développé par Heroes, avec un Z, là, qui est un développeur japonais spécialisé dans l'intelligence artificielle, en fait.
Ah bon? Okay. Ah
ouais, c'est sûr. Mm-hmm. Dans le fond, sur le store, on le décrit comme un genre de strategy board game avec des éléments de deck building. Fait que je vais essayer de faire un peu
des mieux buzzwords un par-dessus l'autre.
Ouais, c'est ça. Fait que je vais faire un peu la petite histoire de Dan qui parle le jeu pour essayer de donner une explication plus claire. Fait que je parle le jeu, puis je sais pas trop à quoi m'attendre. Là. Je me suis laissé avoir par les petits monstres japonais, là, comme dirait TVA. Fait que t'arrives dans le jeu.
Pas parler les grosses bits noires.
Les grosses bits noires, non. Non, mais non, malheureusement. Il ben, y en a peut-être quelques-unes, là, certains Pokémon, que c'est des grosses bits noires. Là, mais... Fait que oui. T'arrives dans le jeu, tu commences, puis dans le fond, le jeu, quand tu le parles après avoir fait ton nom, tout ça, là, tu commences direct dans un petit tutoriel, là, style un peu intro à l'histoire, puis je me dis, bon, ben, il y a de l'histoire, c'est déjà pas pire. Fait que là, l'histoire, c'est que tu te ramasses sur une île pour faire un tournoi d'un jeu qui s'appelle Pokémon Duel, puis que t'as jamais joué.
Hein? Merci.
Là, t'as un doute qui t'offre de t'apprendre à jouer hein, pour que tu puisses au moins comme te faire démolir en comprenant ce qui se passe, j'imagine. En tout cas, mm-hmm. dans ma vie, je m'arrive souvent le samedi après-midi, je vais aller faire un tournoi d'un jeu auquel j'ai jamais joué. Puis dans le fond, dans le tutoriel, ben, on te guide sur les principes de base du jeu. C'est quoi les principes de base? Ben, c'est un jeu où tu as une équipe de 6 figurines de Pokémon, finalement, qui ressemblent un peu à des amiibo. Ils sont quand même nice à regarder. Puis les figurines se déplacent sur un genre de plateau rectangulaire où on peut se déplacer en suivant des chemins qui sont sur le plateau. Puis les chemins peuvent se croiser. Puis quand il y a des endroits où est-ce que ça se croise, c'est là qu'on peut avoir des combats. Difficile d'expliquer un peu à l'audio. Là, c'est un peu comme... C'est pas un jeu d'échecs là, comme des cases carrées, c'est pas un plateau hexadécimal, c'est vraiment là, des chemins qui sont des lignes blanches avec des espèces de nodes qui sont des points blancs sur lesquels tu peux arrêter. En tout cas, comprenons qu'il y a une map. Le but du jeu, dans le fond, c'est de placer une de tes figurines sur la base de l'adversaire, là, qui est un point qui est au centre du côté le plus éloigné de toi. Qui comme un peu sa base. Faut que tu mettes une de tes figurines dessus. Pour faire ça, ben, à chaque tour, tu peux déplacer une de tes figurines. Tu commences avec tes figurines dans ta main, tes 6 figurines, ton équipe que tu avais choisie. Puis tu peux la faire entrer dans le jeu là, dans un des deux coins de ton côté. Fait que c'est comme des points d'entrée. Ces points-là, effectivement, ne sont pas occupés par quelqu'un d'autre. Donc tu peux les faire entrer par là, les déplacer. Tes figurines vont avoir un certain nombre de mouvements. Généralement, c'est 2. Des fois, ça va être 1 pour certaines figurines plus lentes ou 3 pour ceux qui se déplacent plus rapidement. Puis dans le fond, si ta figurine que tu viens de déplacer se retrouve adjacente à une figurine adverse, ben tu peux faire un combat. Tu peux, t'es pas obligé. Fait que un petit peu à la base, le combat est assez simple, surtout si on compare avec les autres jeux de Pokémon. Pas de principe d'avantage, de désavantage en lien avec l'élément du Pokémon qui attaque là, ou qui se défend. Mm-hmm. Bonne chose, mauvaise chose, je suis pas trop sûr. Je comprends l'attrait, ça simplifie quand même pas mal les interactions. En même temps, les gens qui sont très fans de Pokémon sont habitués à ce genre de trucs-là. Bon, c'est comme ça.
En fait, positif et négatif, ça dépend. Pokémonifie la patente.
Ouais, ouais, ouais.
T'sais, t'as pas besoin de connaître tout ça, puis en même temps, ben, ça a-tu besoin d'être Pokémon rendu là? Mais bon.
Ouais, c'est ça. bref, rendu dans les combats, ça se déroule comment? Ben, dans le fond, chacun des Pokémon a une espèce de roulette, là, un genre de spinner, style Twister, si on veut, qui va avoir les attaques, dans le fond, qui prennent différentes proportions du cercle. Fait que les différentes attaques sont là en proportion. Majorité des attaques vont être des attaques sur fond blanche. Je vais l'appeler les attaques blanches, question de simplifier. Qui a un nombre qui correspond au dommage, si on veut, de l'attaque. Le plus gros dommage gagne, c'est 2 attaques blanches qui finissent. Puis la figurine qui perd se retrouve bumpée en dehors du plateau. Il n'y a pas d'accumulation de dégâts pendant 3-4 millions d'années. Tu gagnes, paf, l'autre est bumpé. Dans le fond, elle va se retrouver dans une zone qui appelle le Poké Center. Elle n'a pas confondre avec un Poke Center. Hein, c'est pour toi, celle-là, Matt.
Merci.
Juste pour toi. Dans cette zone-là, dans le fond, tu as comme 2 espaces et puis les figurines qui se trouvent peuvent généralement pas être utilisées, là, à part par quelques habiletés bien spéciales. Puis tu as une 3e figurine qui se retrouve envoyée dans le Poké Center. La première qui est arrivée va se retrouver dans ta main. Fait qu'il y a une espèce de rotation comme ça qui te permet quand même d'avoir souvent des nouvelles figurines. Là. Si tu te fais battre à des combats, ça prolonge un peu la durée de vie de ça. Bref... c'est un peu ça. Dans le fond, si on revient sur les cases d'attaque, il y a différentes autres couleurs qu'on va retrouver. Tu as des cases bleues qui sont des cases défensives, dans le fond, qui te permettent de te protéger à peu près toutes les autres attaques. Tu as des cases mauves qui sont des attaques spéciales qui vont souvent faire des effets comme la paralysie, la confusion, des trucs comme ça, le sommeil, le poison. Bref, celles qu'on connaît, qui vont avoir un impact sur la roulette de l'adversaire, bien souvent, genre diminuer le chiffre d'attaque ou la confusion qui fait qu'après qu'elle ait fait son spin, elle se déplace d'une case. Ou la paralysie qui fait qu'une case qui était au départ, peu importe laquelle, devient une case rouge qui est une case miss finalement qui fait juste rien. Fait que, ça a quand même eu un impact assez important sur ça. Genre les cases rouges que tu tombes là-dessus, tu perds, là, tu rates. Puis tu as des cases dorées qui sont des attaques spéciales. C'est comme on pourrait imaginer des attaques plus rapides si on veut que les autres attaques. Il y a des chiffres dessus. Si tu tombes contre une case blanche, c'est juste le chiffre. Mais si tu tombes contre une case mauve, c'est elle qui gagne. Tandis que d'habitude, les cases mauves vont gagner contre. C'est forcément une espèce de roche-papier-ciseau, si on veut, là, mais pas tout à fait égal parce que les cases sont en proportions différentes. Fait que de base, c'est assez simple pour comprendre assez rapidement le principe du jeu. Tu embarques un Pokémon sur le board, tu le déplaces, tu fais des petits combats, tu essaies d'envoyer un de tes Pokémon sur la base de l'ennemi en te déplaçant. Fait que c'est pas mal ce que tu découvres dans les premiers tutoriels. Puis là, ben, tu te retrouves dans le menu qui devrait mourir immolé par les flammes infernales. Là.
On est censuré, ou pas?
Ouais, je trouve ça plus drôle avec le bruit down. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que c'est comme le gros point faible du jeu. Il y a tellement trop d'affaires, puis c'est sûr qu'il y a plein de monde qui abandonne là. Il y a trop de boutons, trop de menus, trop de patentes. Fait que, tu sais, bon, Au début, il te laisse pas le choix de cliquer partout. Là. Il t'envoie à certains endroits de faire découvrir certains trucs en disant ah, si tu vas là, il y a telle affaire, puis là, des affaires, des gems, achète-toi un booster. Bon, ah. Ils tiennent un peu par la main.
Ah, que ça me gosse, ça, ben, les free-to-play qui ont 1 million de petites currency. Puis
mais
il
y en a pas tant que ça, tu sais, quand même. Mais au début, ouais. C'est un peu comme. C'est overwhelming, là, c'est trop. Mais bon, j'ai commencé à checker étape par étape ce que je pouvais faire, puis c'est moins pire que ça en a l'air. Mais le menu, il est. C'est un clusterfuck, là, tu sais. Mm-hmm. Ou un cluster truck, là, comme on a déjà parlé.
Voilà.
C'est tant mieux. Mais dans le fond, je commence par la meilleure des choses que tu peux faire à ce moment-là. Tu as un petit icône qui a comme un genre de dumbbell là, pour faire des poids, qui sont des missions d'entraînement, qui sont un peu la suite du tutoriel, si on veut, où est-ce que tu vas avoir à réaliser des missions préétablies avec des équipes préétablies, qui vont vraiment t'apprendre les stratégies importantes à savoir puis à comprendre pour bien se débrouiller après ça dans un vrai combat. Fait que, tu sais, sur les... peut-être une dizaine de missions qu'il y a d'entraînement. Chaque mission a un but principal, puis chaque mission a aussi 3 buts secondaires qui, à chaque fois que tu les réussis, vont donner des currency de plus, des coins ou des gems ou des Pokémon directement. Fait que c'est vraiment le meilleur move de commencer là. T'sais, tu vas apprendre que, ben, entre autres, sur la carte, si tu entoures complètement un Pokémon ennemi qui fait qu'il ne peut pas se déplacer d'aucune façon, ben, il meurt, c'est tout. Il n'y a pas de combat, puis pouf, il se retrouve comme dans son Poké Center. Fait que tu peux péter un Pokémon super fort avec 2 petites mades en les déplaçant de façon stratégique. T'sais.
Quand il n'y a plus d'options pour bouger, fini.
Il finit. T'sais. Fait que tu prends tes Pokémon poche, mais qui se déplacent de 3 cases, ben, tu peux aller facilement comme entourer un de ces ennemis forts qui ont juste un déplacement, par exemple. Ils vont te suggérer aussi d'utiliser un de tes Pokémon pour le mettre sur ta base à toi pour que ce soit plus difficile à prendre. Prendre de tes Pokémon puis réussir à les amener sur ces points d'entrée que si tes blocs, il ne peut pas sortir des nouveaux Pokémon, ce qui fait qu'il se débrouille avec ce qu'il y a sur le jeu, puis si tu y renvoies dans sa main... il ne peut juste plus en rembarquer. T'sais, ils vont t'envoyer plein de ces différents éléments-là. Ils vont te faire découvrir les différentes attaques, les couleurs que je parlais tantôt. Donc, c'est comme sous forme de mission, tu vas vraiment apprendre les trucs pas plus avancés nécessairement, mais ce que tu as besoin de savoir, puis c'est pas genre juste 258 000 pages de texte. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ça te donne aussi des Pokémon qui sont intéressants, qui te permettent de changer ton équipe après ça. Ça va te donner aussi en masse de currency pour commencer à acheter une coupe de patentes, puis, tu sais, partir pas avec juste ton équipe de base, puis « Oh, qu'est-ce que je vais faire? » Ça donne quand même du stock intéressant. Ça donne aussi des cartes. Là, je n'ai pas parlé tantôt. Les cartes, tu peux avoir des cartes que tu peux utiliser en combat. En fait, avant le combat, qui vont te permettre de soit booster des attaques, booster des défenses, faire que si tu perds, tu n'es pas knocked out, guérir des statuses. Bon, des cartes que tu peux utiliser qui te permettent de spinner 2 fois la roulette. Faire, ah, non, c'est pas ça, je ne veux pas cette attaque-là. T'sais.
Puis, des mulligans.
Ben, c'est ça. Puis tu en as un nombre limité. Fait que faut vraiment que tu la gères aussi. Puis même en commençant, t'en as des très bonnes. Fait que c'est pas « Ah, tu te commences, t'as des cartes de chenoute, tant pis pour toi. » Il y en a des hot que t'as pas au début, là, que tu peux pogner éventuellement. Mais ceux que t'as vont quand même te servir. C'est pas des affaires de chenoute, là. Bref, c'est un peu ça. Ces missions d'entraînement-là, ben, comme je disais, là, finissent un peu le tutoriel de façon assez efficace, à mon avis. Les autres modes de jeu, t'as une espèce de story mode là, avec l'histoire un peu faible là, où tu passes d'une tour à l'autre. Pour essayer de battre. Puis je pense que si tu gagnes contre le dernier boss de la tour, tu gagnes son hôtel. En tout cas.
En plus, j'adore l'histoire où, d'un, le jeu est un jeu dans un jeu. Puis tu t'en vas. Dans le fond, tu vas juste faire ce que tu pourrais faire de ta vraie vie, là, c'est-à-dire te lever, aller dans un tournoi, puis aller jouer à un jeu. Mais c'est ça l'histoire. Tu joues quelqu'un qui fait quelque chose de crissement anodin de sa vraie vie. C'est magnifique.
Tu sais. Fait que même si l'histoire est faible, c'est quand même intéressant d'avoir une possibilité de jouer contre des personnages non-joueurs, des NPC. Puis les combats, ils sont assez intéressants. T'sais, ils sont pas, les premiers sont bien faciles. Puis rapidement, le niveau de difficulté augmente quand même. Mais pas au point que il faut que j'achète 312 boosters pour mon bat. Non, non, c'est pas comme ça. T'sais, le niveau augmente de difficulté, mais au point que les premiers sont faciles tout le long, c'est un peu intelligent puis tu réfléchis. T'sais. Fait que c'est la seule place aussi où est-ce que les combats te demandent d'utiliser de l'énergie, t'sais, comme dans la plupart des freemium. Mais. Écoute, j'ai joué pendant plusieurs heures là, dans les premières journées, puis mon énergie n'était pas vidée.
OK.
Fait que, tu sais, je me dis probablement que plus loin que tu avances, les combats demandent plus d'énergie, ce qui fait que un moment donné, on va arriver dans une tour pour peut-être pouvoir faire 4-5 combats avant d'en avoir pu. Mais là, je peux en faire non-stop des combats, puis mon énergie, genre, je me tanne bien avant qu'elle soit vidée, puis elle recharge assez rapidement. Fait qu'à date, j'ai pas vu ça comme un problème d'aucune façon, puis il me gosse pas non plus pour que j'en achète. Fait que j'ai même pas vu comment je pourrais la recharger. Fait que je suis pas sûr s'il y a vraiment une mécanique pour payer pour la recharger ou si c'est juste. Ben, fais d'autres choses, tu sais. En tout cas, à voir. Mais je me suis tanné, comme je dis, avant d'avoir plus d'énergie, mais bien avant. Puis ces combats-là, ben, quand on les gagne, comme ils vont te donner des Pokémon ou des gems. Il y a aussi des genres d'event avec des règles spéciales, des trucs là, qui changent. J'ai pas vraiment joué à cette option-là. Je n'ai pas regardé parce qu'à un moment donné...
Il y avait assez de pitons dans le menu sans
assez,
ça.
Ouais, il y avait assez de pitons, mais il y avait aussi assez d'affaires à faire. Puis, de toute façon, fuck off là, avec votre... Jugez-moi pas pour ma capacité journalistique. Là.
Le journal de Montréal. Crichubin.
Contient de l'écrapou.
De l'écrapou qui monne?
De l'écrapou qui monne. C'est bon, j'aime ça. Fait que finalement, ben, on peut se battre contre d'autres humains. Hein, dans un jeu comme ça, c'est un peu souvent l'idée de base. Puis c'est le premier piton là, qui est en gros quand tu pars le jeu. Il est marqué en gros, il est marqué play. Tu pèses dessus, tu sais même pas. Oh shit, je suis contre d'autres joueurs. Ça coûte pas d'énergie. Fait que tu peux jouer autant que tu veux. Chaque victoire va donner comme trois genres de clés, je pense. Là. Puis chaque défaite te donne une clé. Puis quand t'en as 10, ça donne un booster comme gratuit. Pas besoin de payer rien. Puis on s'entend, là, c'est pas très long. Là. Tu gagnes trois games, t'en perds une.
Mm-hmm.
T'as un paquet à ouvrir. Chaque victoire te donne aussi un booster qui, lui, pour l'ouvrir, te prend du temps. Là. Bon, là, on tombe dans les affaires de freemium où tu peux payer des gems pour ça plus rapide puis l'ouvrir, mais sinon, tu peux le dropper là puis peser dessus, il se rouvre, ça prend du temps. Puis moi, vu que je traiterais de façon casual à ce jeu-là, correct, fais mon affaire, paf, tu le pars, puis ça prend 1, 3, 6, 12, 24, dépendant de la qualité là, de ce qu'il y a
heure,
dedans. Heure, ouais. Fait que t'en as un de 24 heures, c'est, ben, c'est correct. À demain.
That's it.
That's it. Puis moi, ça me dérange pas tant. Y a un système de rang aussi là où tu peux ranker. Puis bon, ça, je m'en fous un peu. Moi, j'ai jamais comme joué à ce jeu-là avec un but de.
C'est ça. D'être compétitif.
D'être compétitif, pas tant. Fait qu'il reste quoi dans le menu? Ben, tu sais, je me rends compte une fois qu'on a passé ces options-là, ça a l'air d'un gros clusterfuck, mais c'est parce que t'as tous tes Pokémon en gros qui prennent le deux tiers de l'écran. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, ça a l'air bien intense, mais finalement, c'est ton équipe là, qui te manque. Fait que c'est pas si pire, tu sais. Fait qu'en dehors des modes de jeu différents, t'as un endroit où est-ce que tu peux modifier ton équipe, normalement, changer tes Pokémon, tout ça. Pour les obtenir, je le dis un peu, ça prend des boosters qui vont contenir là, des Pokémon, puis aussi du cash, puis des items là, qui servent à les booster. Dans le fond, tu sais, c'est aussi là que je vais pouvoir utiliser tes gemmes intelligemment, que tu gagnes un petit peu partout en faisant des missions, puis en te loguant à chaque jour, parce que chaque jour, tu te logues, il te donne souvent à peu près 15 gems.
Puis probablement que t'en donnes si tu y vas des jours consécutifs.
Non, il n'y a pas cet élément-là. Ah. Ben, en tout cas, je ne l'ai pas remarqué. Puis si il est là, il ne me le pop pas d'en face. Là.
Ouais.
Fait que je ne l'ai pas vu. Puis je pense pas parce que j'ai joué comme assez fréquemment dans les premiers jours. Puis j'avais pas comme des affaires qui upgradaient ou rien. C'était juste, ben, tu t'es logué aujourd'hui, il y a 15 gems. Tu t'es logué aujourd'hui, il y a 15 gems. Là, aujourd'hui, tu t'es logué aujourd'hui, tiens, voilà deux tickets où est-ce que tu peux activer une intelligence artificielle qui joue à ta place. Là.
Ish.
Ouais, ben, je l'ai pas essayé. Ça ne me tente pas tant parce que je joue pour jouer. Là, je...
Ça me fait tout le temps capoter. Hey, joue donc pas, tiens.
Hein, joue donc pas. Mais bref, les gems augmentent quand même assez rapidement en faisant les missions, les missions puis le story mode. Puis dans le fond, moi, je dépense tout le temps un coup de 200 pour avoir 4 boosters. Là, c'est le meilleur rapport qualité parce que t'es sûr d'en avoir un qui est rare. Là, peu importe. Là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, ça se ramasse assez facilement. Puis je m'en suis pas servi, moi, pour booster la rapidité d'ouvrir les boosters ou de quoi. Je m'en suis servi pour grossir mon inventaire parce que quand je joue Pokémon, je suis un collectionneur. Là. Je garde pas juste ceux qui sont hot. Je veux les avoir toutes. Fait que c'est ce que ça fait. Sinon, on a aussi un menu pour booster nos Pokémon en faisant des genres de fusion entre les différents Pokémon. Pas obligé d'être les mêmes. Là. C'est juste que tu drops tout ça. Pis...
Est-ce que de base, les Pokémon de le même type ont toujours les mêmes stats?
Je crois que les mêmes Pokémon ont le même stats, mais si la figurine est différente, parce qu'il y en a des différentes, ils vont avoir des stats différents.
Ah, c'est intéressant. Ben,
j'ai vu passer deux Pikachu qui n'avaient pas pantoute les mêmes attaques. Là.
OK.
Fait que... J'imagine que c'est un peu comme des séries là, ou quelque chose comme ça. Là. Fait que voilà. Fait que c'est ça, tu peux les booster en utilisant d'autres Pokémon ou des matériaux, dans le fond, puis les faire monter de niveau. Ce qui est le fun, c'est quand ils montent de niveau, ce que tu changes, c'est ton spinner.
Mm-hmm.
Tu vas grossir une des attaques de ton choix qui réduit le miss finalement qu'il y a sur à peu près tous les spinners. T'sais. Fait que en faisant une coupe de niveau, des fois ton miss devient très très petit, 2-3%. Ce qui fait que tu manques moins souvent. Puis tu peux choisir quelle attaque tu veux upgrader. Genre, moi j'aime mieux que ce soit l'attaque qui paralyse. Même si ça ne veut pas gagner, mais ça l'empêche lui de gagner. Puis bon, tu as quand même un peu cette idée-là. Puis ben, c'est sûr, tu as la pierre angulaire de tout bon freemium, le store. Qui n'est pas vraiment juste lié au vrai bidou. Fait que c'est quand même un endroit où tu vas, pas juste pour dépenser de l'argent. T'sais. Tu peux y vendre des figurines pour obtenir des coins. Les coins te servent quand tu fais des fusions.
Okay.
Tu peux pas fusionner à outrance tes Pokémon. Il y a quand même une certaine gestion, mais...
Fait que t'as des coins, des gems, des clés.
Ouais, les clés. Ouais.
quand même.
Ouais, non, j'avoue. Une fois que tu le dis de même, là, mais en jouant, on dirait que la gestion se fait bien. Mm. Les coins servent vraiment juste aux fusions. Les gems servent à acheter des boosters. Puis les clés, c'est vraiment juste comme... En fait, les clés, tu les as pas dans ton inventaire nulle part. Il y a une petite icône qui dit « Ah, t'en as 3
après
sur 10,
6
sur 10, 7 sur 10 parce que t'as perdu. »
OK.
Fait que dans le store, tu vas aussi échanger tes gems contre les trucs qui sont là. Puis oui, il y a une section où tu peux acheter des coins et des gems. J'ai même pas été regardé. mais j'ai absolument aucun intérêt à y aller. Puis tu sais, comparé à bien des jeux, il y a bien des jeux que je pourrais mettre un petit 5. Zéro intérêt, parce que genre ça me servirait à rien. Mm-hmm. Tu sais, je le vois pas.
Le jeu t'en donne en masse sans ça.
Le jeu en donne en masse sans ça. Tu sais, c'est sûr, tu peux pitcher ton vrai fric, là, mais il faudrait vraiment que tu veuilles absolument avoir des figurines intenses. Là. Fait que tu sais, si je finis, mettons un peu sur mes impressions, un peu pêle-mêle sur tout ça, mais le jeu le dit au début, que ça peut coûter des vrais dollars, mais qui dit aussi que le jeu est très faisable sans dépenser des vrais sous. Clairement, un message pour les parents, là, mais c'est clair, t'es pas obligé de dépenser, puis jusqu'à maintenant, c'est vrai. J'ai absolument aucune raison. Tu sais, je suis patient, là, je joue pas 12 heures par jour. Là, ah ben, c'est cool, j'ai un booster, prend 12 heures, paf, puis bon, finalement, je me tente plus de jouer. Moi, quand mon téléphone me fera une notification que mon booster est prêt, je le cliquerai, puis je verrai si je joue une game ou pas, tu sais. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est pas nécessairement en ramassant des centaines de boosters pour avoir des bestioles bien, bien fortes que tu vas gagner. C'est ça que j'aime le plus du jeu. J'ai gagné des jeux, des games où est-ce que mes Pokémon n'étaient pas forts contre des équipes de Pokémon de Mongol parce que le gars n'a pas été intelligent. Puis stratégiquement, ben j'ai passé mes Pokémon à côté des siens, j'ai utilisé des items pour faire skipper par-dessus ses Pokémon, puis il s'est retrouvé avec pas de défense, puis mon petit Chris de Bulbasaur cheap de début qui se déplace vite, a fait comme pouf pouf pouf, hey le grand, t'as perdu, genre même si à chaque fois que tu m'attaques, tu me tues, mais j'ai été plus brillant que toi.
Fait que ta critique, c'est Bulbasaur fait pouf pouf pouf.
Pouf pouf pouf.
Voilà.
On finit là-dessus. Ben, c'est ça, tu sais, le but du jeu, c'est pas de battre les Pokémon de ton adversaire, c'est de réussir à te placer tactiquement sur son point. Fait que tu peux assez intelligemment réussir à le bloquer facilement, puis en ayant juste 2-3 Pokémon assez forts, réussir à battre ces quelques Pokémon, puis t'amener vers une victoire. Puis c'est ce qui m'arrive, là. J'ai pas des Pokémon de Mongol, j'ai quand même une couple de forts, puis d'autres que j'utilise intelligemment. Puis je pense que c'est ce que j'aime le plus de ce jeu-là. C'est pas juste comme t'as pitché du cash dans ton écran, là, ben c'est sûr que tu vas gagner, versus non, faut que tu réfléchisses, puis. J'ai perdu aussi des games en faisant des moves de cave, en faisant « Oh shit, je peux rien faire. C'est sûr qu'il sera à mon truc dans le prochain tour, puis j'ai rien pour le bloquer. » Eh ben, j'ai pas été intelligent. T'sais, c'est tout. Fait que, ouais, c'est peut-être ça que j'ai plus aimé là-dessus. Fait que, tu sais, un jeu qui se pogne rapidement au départ, mais qui a une quand même belle profondeur. Un jeu qui permet de jouer de plein de façons, puis qui permet de jouer beaucoup sans même dépenser une scène. Tu sais, c'est sûr là, que quelqu'un qui veut finir dans le top 100, il va picher de l'argent pour avoir les meilleurs Pokémon, puis jouer intelligemment. Mais sinon, là, tu peux avoir du fun sans dépenser une maudite scène, ce qui est rare dans un freemium plus que dans les deux premières heures. Là.
Ouais.
Tu sais, après 2-3 heures, là, ça commence à te demander tout, puis lui, ben, pas en tout. Là, je peux continuer de jouer contre du monde gratuit, n'importe quand, tout le temps. Tu sais.
Ça a l'air d'avoir beaucoup plus de profondeur que je me serais attendu.
Ben moi aussi. Puis, c'était ma grosse surprise dans le téléchargement, mais je le savais pas. En fait, j'ai découvert aujourd'hui, en regardant un peu, que le jeu est vraiment basé sur un vrai jeu.
OK.
Qui s'appelle le Pokémon Trading Figures, qui est sorti en 2007, puis qui était comme exactement ça.
Ah, OK.
Mais j'ai aucune idée que ça allait exister, ce
jeu-là. Il y a un équivalent analogue.
Ben, il y a un équivalent analogue, puis j'imagine qu'il y a des petits pénurs en carton, ça doit être très drôle. Faudrait que je vois comme.
Oui, ça donne le goût.
Quand même, là. On va avoir 2-3 juste pour spinner le Pokémon.
Sacrifice. Ça passe pas.
Non, ok, désolé. Fait que, ben oui, c'est ça, sortant en 2007. Fait que je donne quoi à Pokémon Duel pour finir mon segment? Ben, je donne un bon 3 pattes de divan, mais le divan est quand même à côté au sol parce que j'ai pris les 3 pattes de divan pour partir un feu pour y brûler le menu. Là. We don't need-